Ça finit jamais ce morceau. Jamais. En fait, ça va durer 2 heures comme ça. Ah non, ça c'est... c'est terminé. Bonjour, bande de beaux gosses. Heureux de vous retrouver en cette... Non, à part partir pour le rock. En cette nouvelle semaine de stream, de matinée Étienne, de l'hebdo Étienne, de que sais-je encore. Non, il n'y aura que deux types de rendez-vous cette semaine. D'abord, je vais... Vous savez que j'essaie d'amener la paix dans le monde... Calmelon comme ça, Jésus, Bouddha. En tout cas, le plus de tranquillité, de douceur possible dans ce monde qui en a tant besoin. Et je vois un message qui me chagrine un petit peu. Où es-tu, mon ami? Freestock, je suis désolé. Vous savez qu'avant même que le stream se lance, bah voilà, vous commencez à échanger dans le chat. Bonjour, comment ça va? Comme ça. Quoi. C'est un vieux groupe néerlandais, je crois. Vous connaissez pas, vous êtes trop jeune. Et Freestock écrit: bonjour à tous, je suis ban Twitter, donc je suis peut-être plus le bienvenu. Alors. Bon, c'est pas un truc que je raconte forcément, mais moi j'adore Twitter. Je trouve que c'est un outil formidable pour s'informer, même pour échanger, voire se rapprocher quand on l'utilise bien, cet outil. Alors mon ami Patrick Peloux, le médecin qui était invité de vendredi soir à la maison dans l'hebdo Étienne avec d'autres invités pour revenir sur l'actualité, lui il n'en peut plus de Twitter à cause de la violence aussi qui s'exprime sur là-dessus. Mais moi là-dessus, Twitter, je suis pas, voilà, j'ai pas de problème avec Twitter, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis j'ai le cuir un peu tanné, donc les agressions au quotidien qu'un présentateur d'un... Par exemple, un animateur peut vivre sur Twitter, il y a, franchement, ça va quoi. Mais pour apaiser le truc aussi, du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout le ban facile sur Twitch, vous le savez. Hein. Ici, pour bannir quelqu'un, les modos le savent, faut vraiment y aller quoi. Des petits bans provisoires de temps en temps, mais on donne sa chance au dialogue quoi. Sur Twitter, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de violence aussi. Donc moi, pour apaiser mon Twitter et pour pas avoir plein de messages un peu violents sous mes messages, y compris les plus anodins, je bloque vachement facilement. Et puis je mets pas, je bloque, c'est-à-dire que je veux que la personne sache qu'elle est bloquée, quoi. Voilà, je veux aussi que ça se sache, quoi. J'assume totalement. Et donc Freestock, je t'ai bloqué. Alors deux choses l'une, parce que parfois je suis pas très malin moi non plus. Hein. Donc parfois je comprends pas le message, le tweet, la réponse. C'est de l'humour, c'est intelligent, c'est fin, c'est subtil. J'ai pas compris et j'ai bloqué. Et puis parfois c'est C'est parfois je bloque parce que j'ai très bien compris. Et peut-être que c'est le cas, c'est peut-être que j'ai pas du tout compris ton message. Donc Freestock, je vais pas te dire envoie-moi un DM sur Twitter parce que si t'es bloqué, je pense que tu peux plus m'écrire. N'hésite pas à me dire ici, voilà, je sais pas parce que du coup j'ai essayé de j'ai tapé Freestock sur Twitter là et j'ai regardé, mais je peux vous montrer. Hein, donc j'ai tapé Freestock sur Twitter. Et je trouve pas de. Je sais pas lequel c'est, quoi. Voilà. Bon. Bon, en tout cas, tu n'es pas ban ici. Tout va bien. Que vous dire? Bah, vous dire bonjour, vous dire une bonne semaine, remercier. Mais c'est quoi tous ces subs de bon matin? Merci. 8e mois d'abonnement pour Josh Bar. 2/3 d'un an, ça se fête. Même si c'est plus dur de te regarder avec moins de télétravail. En tout cas, c'est gentil d'être avec moi. Et merci pour ce sub. Andayoa, merci pour ce 9e mois d'abonnement. C'est nos reels. Merci pour le 4e mois. Astroboy44, merci pour le 6e mois. Bonjour à toi. Et à l'instant, qui? Oh, Kiki de Jungle. Ça, c'est un beau pseudo. Prenez-en de la graine. Merci pour ton Prime. Hermite, merci pour ce. Oh! C'est faux, mais c'est gentil. Hermite qui écrit avec son sub Best Chaîne Ever. Je vous lis un petit peu. Ça me met de bonne humeur. Et après, on accélère très très vite. Porqué. Parce qu'en fait, j'ai un technicien qui vient à la maison pour régler un truc à l'appartement vers midi. Sinon, 2 heures. Genre le stream. Le stream qui va durer 2 secondes, donc je vais enchaîner vite avec les articles. Mais d'abord, je vous lis parce que c'est mon petit plaisir. Je vous lis, puis après, je vous annonce le programme de la semaine parce qu'il y a du retour de questions pour un champion. Sushi Poops, Ren, arrête avec tes cheveux, ils sont très bien. Ouais, enfin, il y a quand même de moins en moins. Armel Couvert, ah, je l'aime ce pseudo aussi. Bonjour de Californie, 1h du mat ici, petit passage avant le dodo. La classe quand même, Armel Couvert. Ah, c'est pas mal, 9e mois d'abonnement. Alors, je vous lis. Je vous lis. Merci ZombibiFog pour ton message. Je vous lis notamment mon ami là tout à l'heure que j'ai bloqué sur Twitter. Je voudrais savoir un peu plus. Janvier, t'es vu, j'ai vu ton message. Non, j'ai vu ton message, c'est juste que je manque de temps, mais j'ai vu ton message très intéressant. Griotte 2, merci pour ce 10e abonnement. D'ailleurs, ça m'a fait bien plaisir, Janvier. Merci beaucoup. Alors, il me faudrait du temps pour qu'on échange là-dessus, mais le temps, c'est ce qui me manque. Alors, est-ce que j'ai des infos sur le. Notre. Freestock écrit. Oui, l'incompréhension est vite possible. Voilà. Et oui, Freestock. Tiens, envoie-moi à Freestock. Je sais ce qu'on va faire. Envoie-moi Freestock en DM sur Twitch, en message sur Twitch, là maintenant dans ma messagerie. Un petit message. Tu me mets ton compte Twitter, le nom de ton compte Twitter, exactement comme ça, je le retrouve. Et puis, je vais voir si effectivement je ne t'ai pas bloqué par erreur. On va faire comme ça. Voilà. Ça parle le foot. Belle prestation de Monaco hier à Paris. OK. Est-ce que j'aimerais faire le The Event Kiki? Mais j'y suis passé deux fois déjà. Je suis passé deux fois au The Event l'an dernier et l'année d'avant. Alors, pas comme streamer full time 3 jours, mais comme invité, un petit peu comme ça. Notamment dans les pattes d'étoiles, le pauvre. Mais a priori, cette année, je n'y serai pas. Mais bien sûr, c'est formidable le The Event. Bravo à eux. C'est formidable ce qu'ils font et, et ça impressionne beaucoup, vous savez, dans mon vieux monde. Voilà, dans les médias traditionnels, les gens savent hein, ce qui se passe autour du The Event de plus en plus et ils trouvent ça formidable, en vrai quoi, en vrai. Notamment, il y a même des gens qui connaissent pas trop Twitch et qui me disent, oh là là, c'est quoi ce truc là avec les gamers qui se mobilisent pendant plusieurs jours là, pendant 3 jours, ils sont quelques dizaines, ils ramassent des millions, c'est quoi, c'est une folie. Voilà, c'est vraiment très impressionnant. Tu vas faire ton émission quand il y aura le Z Event, tu la feras là-bas. Je serai pas au Z Event. Donc, oui, effectivement, bah, mon émission du vendredi, bah, je la ferai à la maison, bien sûr. On va parler d'enseignement, Alain, on va parler d'enseignement, on va parler de la rentrée, du manque de profs, je pense, aujourd'hui. Ah, j'ai pas vu Katos. Ah si, j'ai vu ton message pour les cartes Pokémon, pardon. Là aussi, je suis à la bourre. Merci en tout cas, je vais revenir vers toi dès que je trouve du temps. Merci Jojo Lafrosse pour ce 3e mois d'abonnement et le gentil message pour l'émission de vendredi soir, l'hebdo Étienne, que tu as vu en replay manifestement. C'est super gentil. Jojo, merci. On revient vendredi dans l'hebdo Étienne avec 3 nouveaux invités. Je pense que je vais vous les annoncer mercredi, je pense. Les 3 invités de vendredi. Ils sont déjà calés depuis un moment, mais... Je pense que ce n'est pas la peine de les annoncer 15 jours à l'avance. Lia, merci pour l'abonnement que tu as offert à la commu. Et Dahu88 pour le 8e mois, je te dis merci et bonjour. Que penses-tu de la calvitie, rhum sauce? Non, je ne vais pas sur ce sujet. Brûlant, Benjus, merci pour ce 4e mois d'abonnement. la calvasse. On n'en parle pas ici, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas. Alors, on fait l'autruche. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Neuf Xander, dommage qu'il banalise les streamers par des gamers. Non, je trouve pas qu'il banalise. Quand tu regardes les participants aux Z-Event, Neuf Xander, je suis désolé, ce sont des gamers. Ce sont des gamers. Il y a qui est pas gamer? Il y a Jean Massier qui est pas gamer. Mais si, en plus, il est gamer, Jean. Sauf qu'il se passionne pour la politique par ailleurs, mais c'est un gamer. Et sinon, tous les autres, c'est full gamer hein, pour le The Event. Sauf erreur de ma part. Hein. On vérifie l'info, mais pour le coup, là, il se trompe pas. Hein. Il se trompe pas. Hein. Je vous lis. On démarre très très vite ce matin parce que ça sera un stream court. 2 heures. Ouais. Je sais pas si vous aurez la matinale de France Info ce matin, mais on était super fiers parce que j'ai quand même une équipe topissime. Donc France Info, pas la radio, mais la télé. Et là, on est en train de... On a réussi à redynamiser encore plus la matinale. Il y avait un rythme d'enfer, notamment autour de la mission Artemis là, vers la Lune ce matin. On a vraiment super bien bossé. On était en direct de Cap Canaveral. On avait David Lefort, notre spécialiste scientifique, pour nous éclairer. On s'est régalé. Voilà. Voilà. Xoves dit à la base, le The Event, c'est un marathon de gaming. Bah ouais, quand même. Hein, quand même. Hein, quand même. Hein. Papsan, ouais, Papsan. Oui, Papsan, effectivement. Sur les 50, tu as Papsan. Qui, je crois, en plus, est un invité exceptionnel. N'est pas, sauf erreur, n'est pas dans la liste des 50 qui a été annoncée par Zera au début. Donc, je sais pas si Papsan est considéré comme un des 50. Sauf erreur de ma part, Papsan, qui fait un super boulot IRL sur ses streams, a priori, est pas un 100% gamer. Mais sauf erreur de ma part, c'est un invité du The Event et ça n'est pas un des 50. Et puis on est. Et même si j'intègre Papsan dans la liste, et je pense qu'il n'est pas dans les 50 annoncés par Zera au début, mais je pense que Zera et Dash, ils voulaient inviter aussi quelques personnalités, comme ils ont pu le faire avec moi ces deux dernières années, et qui ne sont pas dans la liste des 50 streamers principaux qui streament pendant 3 jours. Même si tu intègres Papsan, on est quand même sur une toute petite proportion de non-gamers. Hein. C'est quand le décollage de la fusée? Occitanien, question d'actualité. 14h. Début de la spéciale sur France Info cet après-midi, 14h30, 14h33, décollage de la fusée, qui peut être reporté, bien sûr, s'ils ont le moindre doute sur les conditions météo, sur un truc technique, vu les milliards d'investissements que ça a demandé, ça peut aussi être... Tiens, regarde, au moment où je dis ça, il y a Défécateur officiel, excellent, qui dans le chat nous donne une info, Artemis 1, parce que c'est la mission Artemis 1, il y aura la 2, il y aura la 3... Pour l'instant, il y a un souci pour remplir le réservoir d'hydrogène à suivre. C'est exactement ce que je vous disais. Ne soyez pas surpris si à 14h30, on vous annonce que c'est reporté d'une heure, de deux jours, etc. C'est tout à fait prévu. Hein. Ils ne vont pas prendre un risque. Voilà. Voilà. Il y a un Sorus qui me confirme que Papsa ne fait pas partie de la liste des invités initiales, donc des streamers principaux. Et donc, il est un peu un invité exceptionnel. Trenwan, merci pour le 8e mois d'abonnement. Tiadro, je rajoute des R. Tidraoxalis, merci pour ce 13e mois d'abonnement. Ça claque. Il y en a quelques-uns qui sont déjà arrivés à 13, vous n'êtes pas nombreux. Benju, je t'ai remercié tout à l'heure, ouais, je crois. Merci. Alors, je vous lis. Noémie. Ah oui, Noémie, oui. Noémie JNK, mais je sais que je savais que ton pseudo me disait quelque chose. Oui. C'est un tweet d'un copain à toi, je crois, qui m'a renvoyé sur un extrait de ton stream. Et je suis tombé sur la vidéo, ça m'a beaucoup touché. Donc du coup, je t'ai follow sur Twitter. Salut, Noémie, merci d'être là. C'est cool, ça m'a fait super plaisir. Je vous lis. C'est quoi la mission Artemis? C'est la Lune. On retourne vers la Lune. Autour de la Lune pour commencer, sur la Lune après et peut-être vers Mars après. Je voulais vous raconter tout ça. Je vous en ai déjà parlé ce week-end avec un article du Parisien qui était sorti samedi, que je vous ai lu hier. Et je vous ai retrouvé un article, bien sûr. C'est une des grosses actus de la journée. Hein. C'est la mission Artemis avec le décollage de cette fusée depuis Cap Canaveral à 14h30 à peu près. Voilà. Il y a Harmonie qui résume. Non, c'est Défécateur encore. Bientôt, j'aurai plus rien à faire parce que Défécateur me donne toutes les infos. Artemis est une mission comme Apollo. Oh, mais quel champion, qui vise à ramener des humains sur la Lune d'ici quelques années, 2025 normalement, et là c'est le premier vol. Moi je dis, ça c'est propre. Pourquoi faire? Pourquoi faire la conquête spatiale, tu vois? Après c'est le débat, c'est ça. Enfin, pourquoi on va sur la Lune? Pourquoi on va dans l'espace? Pourquoi on va sur la Lune? Pourquoi on a envie d'aller sur Mars? Alors là, oui. il nous faut quelques heures là pour bosser là-dessus quoi. Voilà. Je remercie les derniers subs. On parle de qualité de son, micro, une question à vous poser, et puis on fait un petit sommaire, ok? Bartman TFT, merci pour ce prime, c'est super gentil. Train One, on a combien? Plus qu'un mois, me dis-tu, parce que dans un mois, ça fait 9. Merci pour le 8e mois d'abonnement. Une question sur le son. Vous savez que mon ami Joe, qui m'est précieux et qui m'aide beaucoup dans ce que je fais sur Twitch, qui était à la réalisation de l'émission L'Hebdo Étienne avec 3 invités, 3 caméras, 4 micros, vendredi soir, qui a tout installé, setup de fou dans la salle à manger prêtée par mon amoureuse. Il en profite pour dérégler totalement ma table de mixage parce que j'ai mes petits réglages à moi, je suis super maniaque et tout parce que ayant fait de la radio, je fais très attention au son, à la qualité du son, à la tessiture de la voix, tout ça c'est important. Il m'a tout déréglé, le salopio. Joe, si tu me regardes, c'est une blague entre nous, il me dérègle tout à chaque fois et j'oublie de noter mes réglages. Donc j'ai pesté, j'ai râlé pour demander aux voisins. Dimanche, j'ai passé du temps sur ma table de mixage à tout re-régler et tout. Et puis du coup, j'ai fait un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est que je suis allé voir aussi des tutos sur internet de garçons qui ont la même table de mixage que moi, le même micro et tout, pour voir, j'ai vu des choses intéressantes. Voilà. Et du coup, je suis reparti sur d'autres bases de réglage. Et c'est là où vous intervenez. J'ai besoin de vous. J'ai totalement changé mes réglages. Sur quelque chose de beaucoup moins trafiqué, beaucoup plus naturel, j'ai viré tous les effets. Du coup, Bref. On est sur, je ne sais pas si ça s'entend, on est sur quelque chose de totalement nouveau. Voilà, à la fois beaucoup plus propre, beaucoup moins d'artifices, de trucs, d'effets travaillés, de nose gate, de plein de choses, pour ce résultat. Et ce résultat intéressant, c'est que, en plus, il me permet éventuellement d'avoir beaucoup plus de puissance pour moi, pour mes invités, puisque en enlevant plein d'effets, j'ai gagné, je peux augmenter vachement les dB. Et je voulais demander votre avis sur le retour. Commencer ce matin. J'aime beaucoup, c'est très bien. Si, voilà, belle voix de crooner. Formidable. C'est bien, même pas mal. Bonjour, qui est cet homme avec cette voix suave et sexy? Ouf, ça fait du bien. Quelle voix suave, voilà, beaucoup trop de basse. Non, ça c'est ma voix, ça. C'est ma voix de comment il s'appelle le mec qui a une voix de basse, incroyable. Il y avait Marvin Gaye, il y avait... Je sais plus. C'est bien. Ah, mieux. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. En fait, j'ai viré tous les réglages. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris tous les réglages, tous les petits effets que j'avais mis avant sur ma voix, etc., avec ma table de mixage. Et puis, j'ai dit, tiens, on va tout enlever pour voir. En fait, ton micro, il est bien, Samuel. Ça fonctionne très bien comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé de la puissance. Oh, ça me fait plaisir. Ouais. Oh, ça me fait plaisir. Oh, vos retours me font plaisir. Non, c'était pas Jean-Jacques Bourdin, le crooner que je cherchais, mais merci pour vos propositions. Note cette fois les réglages. Ah bah c'est simple, Émilie. J'ai viré les réglages, j'ai plus de réglages, alors comme ça. Mister Geekas, est-ce que tu peux pas sauvegarder ce preset pour la prochaine fois? Il y a plus de preset. J'ai viré tous les réglages. C'est que moi. Alors je vais noter, je vais me faire un post-it parce que demain j'aurai tout oublié. Demain, vous savez, à mon âge, c'est pas facile. Je serai là, en train de râler encore auprès d'Hélène et de Joe. Ah oh là là, j'ai oublié tous mes réglages et tout. Et là, il faudra me rappeler dans le chat, ou alors je vais me faire un post-it. Sam, tu as enlevé les réglages. Donc je vais mettre un post-it. Voilà. Réglage Sam, 2.0 réglage. Voilà. Vous êtes trop gentil en tout cas. Quel bel univers. Twitch, c'est cool. Janvier, j'ai pas vu ton commentaire. J'ai qu'une crainte quand Malo viendra. J'ai loupé parce que ça avait l'air sympa. Attends, je recherche le commentaire de janvier qui a dû dire une bêtise. J'ai qu'une crainte quand Malo viendra hurler dans le micro. Qui a répondu vrai? Oui, on essaie d'imiter Malo dans son quiz Pokémon. Qui a répondu vrai? T'es tout seul à avoir tort. Ça c'est Malo. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme je pense avoir du coup trouvé les bons réglages pour ce micro, au bout de 2 saisons de stream, il était temps. Bah du coup, ça veut dire que le son de nos invités sera sans doute meilleur aussi vendredi. Qui seront les 3 invités du numéro 2 de l'Hebdo Étienne, hein, cette émission désormais tous les vendredis soirs à 20h, dans laquelle je reviens avec 3 invités sur l'actualité de la semaine. Les 3 invités vendredi prochain à 20h, je les ai déjà calés, sont... suspense. Ah, mais non, j'ai dit, je vous dirai vendredi. Bon, allez, 21 minutes d'introduction. Il est temps de passer à. Ah, ça fait des pronostics. Alex Bouyaguet, Thomas Pesquet. Non, 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 non. Rhubarbe, on prend les mêmes, on recommence. Non, je change tout. J'ai envie de vous en proposer plein, 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 plein. Et puis, vous me direz au fur et à mesure ceux que vous avez aimés, ceux que vous voulez voir revenir. C'est ça que je vais faire. Donc, les premières semaines, vous allez avoir plein de nouveaux invités à chaque fois. Oui, je bosse. C'est pour vous. Ouais, je sais, par exemple, vous avez bien aimé Salomé Sakié. J'ai eu de bons retours sur Salomé. J'ai eu de bons retours sur Julien Pin aussi. Voilà. Et Patrick a ses petits chouchous aussi. Donc voilà, je regarde vos retours à chaque fois. Salomé, elle a eu beaucoup de succès. Voilà. Merci à Kit, ça me fait super plaisir. Je remercie les subs. On fait un sommaire en musique en 3 minutes pour ceux qui ont que 3 minutes ce matin. Comme ça, vous pouvez passer à autre chose. Non, je n'ai pas prévu d'inviter Marine Le Pen. C'est biche, pas tout de suite. J'ai même pas prévu d'inviter de politique tout court dans cette émission. Delphine, merci pour ce 8e mois d'abonnement. Pourquoi Coco vendredi? Ah, Coco, la dessinatrice. Ah, bonne piste. Delphine, merci pour l'abonnement. The Voyageur, merci pour les bits. Team GM, merci pour le 12e mois d'abonnement. Akid 777, j'avais pas vu ton sub. Merci. Zorclub 04, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure. Et maintenant le sommaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, dans la matinée Étienne, qui est mon rendez-vous que j'essaye de rendre quotidien, même si parfois je suis empêché, par exemple cette semaine. Là, je suis là ce matin. Demain, je suis là le matin, voilà, avec vous. Mercredi, jeudi et vendredi matin, je ne serai pas là. Mais j'ai une bonne raison. Je reprends les enregistrements de questions pour un champion. Donc, je serai à la matinale de France Info, mais je ne serai pas le matin sur Twitch, mercredi, jeudi et vendredi, et je m'en excuse. Mais je serai là vendredi soir, puisque l'hebdo Étienne sera là, et je serai là dimanche matin. Donc je vous fais 4 streams cette semaine, c'est vraiment le minimum pour moi. En dessous de 4, c'est ni fait ni à faire, et je crois que je descends jamais en vrai en dessous de 4. Enfin, même cet été, j'ai streamé tout l'été. Donc voilà, c'est 4, c'est le minimum, je peux pas faire plus cette semaine, voilà. Bah, c'est mon minimum. Voilà. Et la semaine prochaine, on aura encore des questions pour un champion, mais je vais essayer de vous caler 4 streams minimum aussi, quoi. Attendez, est-ce que je dis une bêtise? Parce que mercredi, jeudi, je serai en question pour un champion. Ah bah non. La semaine prochaine, je ne ferai pas 4 minimum. Quel menteur! Quel menteur. Voilà. Bon, il y a une semaine qui pique comme ça par mois, qui est à cheval sur 2 semaines. J'ai 6-7 jours par mois où j'enregistre question pour un champion. Ces jours-là, je ne peux pas être le matin sur Twitch. Voilà. Donc, t'enlèves 7 jours à 30 jours, on va dire. Il reste 23 jours. Voilà, j'ai promis à Hélène de plus streamer le samedi en échange du prêt de la salle à manger le vendredi soir. Il y a un petit deal familial. j'adore, qui est complètement fou. Vous savez, c'est cet artiste franco-américain qui a explosé pendant le confinement, qui chante, qui mixe chez lui dans son appart. Il est en peignoir, en caleçon, il mixe et tout. Il est complètement fou. Puis là, il a tellement de succès qu'il fait de plus en plus de concerts IRL aux États-Unis. En France, il est en tournée, il va dans les festivals, il va être à l'Olympia, il va être à Salle Playel, c'est pas rien, à Paris. Et là, il était au Touquet en festival, et il a insulté le président Macron, qui était là en plus. Voilà. Donc ça fait un petit peu désordre. Je peux vous montrer ça d'ailleurs. Ouais. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Nojo qui dit, il est ridicule ce Marc Rébillet. Bon, alors après, là ça, c'est vrai qu'il aime manifestement provoquer le buzz et le clash. Donc là, ils ont été pris à Trump déjà. Macron, c'était pas la première fois qu'il disait des noms d'oiseaux à ce propos. Oui, c'était une insulte, on peut dire. Il y a Citoyens du Monde, c'était une insulte. Je ne vais pas vous la... Oui, c'est une insulte, je ne veux pas là-bas. Et est-ce qu'il faut dissocier l'homme de l'artiste? Moi, j'aime bien le bonhomme. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Rebillet, c'est très simple. Vous allez sur Twitter, vous tapez Marc Rebillet. Merde, ça ne passe pas du tout. Ça, c'est l'alerte pour quand les enfants débarquent. Marc Rebillet, c'est très simple. Hop. Alors, Marc Rebillet. Moi, j'ai découvert pendant le confinement, hein, comme plein de gens. Vous allez sur Spotify, c'est écouté par des millions de personnes. Hein. Donc, c'est à la fois underground et de plus en plus connu. Hop. On cherche. Qu'est-ce qu'il dit Ah ben, il y a Antoine Daniel qui est fan. Bon, bah très bien. Moi aussi, je suis fan. North, voilà. Il est fou pour ceux qui ne connaissent pas. C'est lui. Vous allez voir. Donc, le gars, il est en peignoir, il est chez lui, il a sa table de mixage, il fait des boucles, etc. Il chante. Il est comme ça, voilà. Et en vrai, c'est pas mal. Let's go. Quand j'ai coupé, je vais plus loin. Il s'énerve parfois, attendez. Parfois. Bon, ça c'est une soft. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée. Mais parfois, il y en a des beaucoup plus énervés. On va sur ces vidéos. Donc là, on vient de l'écouter celle-là. Bon, il invite des gens à chez lui. Money Motivation. Donc ça va être. Ah ouais, excellent. Getting done, you gotta show up if you wanna get it done. You gotta show up if you wanna get it done. You gotta show up if you wanna get it done. If you wanna get some shit done, bitch, you gotta show right up and do that shit. You gotta show up, do that shit. You gotta show up, do that shit. You gotta show up, do that shit. And if you don't show up, shit ain't getting done. You gotta show up if you. Oh, les copyrights, putain, je vais encore me faire. Ah, excusez-moi. Donc voilà, c'est lui, Marc Rébillet, Ah, il y a Flo Berus qui me dit j'aime bien ce qu'il fait Marc Rébillet, mais il n'a pas forcément l'air sympathique, excès, divers types et donc insulte. Ah ok, d'accord. Alors, moi je connais. Il y a Vikix qui me dit ça aussi. J'aime bien l'artiste mais pas l'homme. Ah, alors moi je connais pas l'homme. Je connais juste ce qu'il fait sur internet. J'ai vu un article dans la presse écrite il y a quelques temps que je vous ai pas lu d'ailleurs, mais qui raconte son parcours. Il est franco-américain. Il a vécu à Paris. Il a été garçon de café ou je sais plus quoi. Il est retourné aux États-Unis. Il a essayé de percer. Dans le cinéma, ça l'a pas fait. Et puis il a explosé pendant le confinement avec ce qu'il fait là, voilà. Ah, d'accord. Ah, je savais pas que. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Donc voilà. Il y a Garogan qui se fâche. Il y a pas plus intéressant comme actu. Alors pour le coup, c'est une petite polémique quand même parce que. C'est quand même un artiste qui a tourné en France et qui insulte le président de la République quand même. Donc c'est une petite polémique quand même. Alors Will Salad précise, j'y étais, le président n'était pas là, il est arrivé une heure après. C'est vrai que j'aurais pu être plus précis. En fait, le président Macron s'est présenté à ce festival du Touquet. Mais au moment des insultes, il n'était pas encore arrivé. C'est vrai, Will Salad, merci pour cette précision. L'info augmentée, je vous donne des infos, vous m'en donnez d'autres et le résultat, il est encore meilleur. On fait un sommaire un peu plus développé. Vous avez l'essentiel pour cette polémique Marc Rébillet qui va rebondir ou pas d'ailleurs. Alors, le sommaire en 15 minutes. En une du Parisien, Ça, si on met de côté l'histoire de la d'Artemis et de la fusée vers la Lune, là, c'est la grosse actu en ce moment, quoi. C'est la flambée des prix de l'énergie dans le monde entier, en France notamment. Voilà, à la une du Parisien, les pistes pour amortir le choc chez nous. Afin de soulager le budget des ménages, le gouvernement envisage l'an prochain de prolonger le bouclier tarifaire, mais pas forcément pour tout le monde. En fait, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Est-ce qu'on va payer de plus? C'est quoi la question? C'est quoi la question? Faisons simple. Hein. On n'est pas là pour faire compliqué ici, si on essaie d'essayer de comprendre l'actu. Est-ce qu'on va payer beaucoup plus cher demain notre gaz et notre électricité? Hein? Est-ce que, voilà, c'est ça. Bon. Alors il y a des pays où c'est déjà la folie, où ça va être encore plus la folie. À Grande-Bretagne, là, on annonce une augmentation de 80% des tarifs. Bah oui, c'est voilà, économie très 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 libérale. On n'aide pas trop les citoyens, etc. En France, on a plus une tradition autour de l'État providence, comme on dit. Donc, on essaye d'amortir un peu plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France? C'est la question. C'est pour ça qu'il y a plein d'articles. Voilà, bah, c'est résumé là. Une hausse des prix, mais jusqu'où? Vous verrez qu'il y a plusieurs sujets sur articles sur la question ce matin. Pour moi, là, en ce début de semaine, si tu mets l'espace de côté, c'est la grosse actu, quoi. Ça, c'est pas la grosse actu et c'est bien dommage. Il faut aller page 9 dans le Parisien pour la trouver, mais c'est pas du tout dans les autres journaux. Mais bon, la presse en parle quand même régulièrement. On fait un point à quelques jours de la rentrée scolaire sur l'accueil des élèves handicapés, ce qu'on appelle l'inclusion notamment en milieu scolaire des enfants en situation de handicap. Il y a eu des choses faites ces dernières années, hein, il faut le reconnaître, c'est vrai, mais c'est toujours insuffisant. Donc là, on a un rapport sur la question. Oui, on a fait un peu plus pour l'inclusion, l'accueil des enfants en situation de handicap dans l'école, hein, classique, en France, mais c'est toujours insuffisant. Donc je tiens à vous lire parce que c'est un sujet qui m'est cher et je pense que la beauté d'une société se mesure, notamment et peut-être en grande partie, à la manière, je le pense très fort ça, dont elle s'occupe des plus fragiles, des plus faibles. Voilà. Je pense que le degré de civilisation, le degré d'une civilisation, la beauté et la noblesse d'une civilisation, son développement se mesure, devrait se mesurer d'abord à ça. C'est pour ça que cette question m'est chère. Un truc un peu plus léger, je vous avoue que je ne l'ai pas lu, mais si on a le temps, je vous montrerai. Bon, c'est le truc traditionnel de rentrée, là. Quelle est la tendance des prénoms en France, hein? Je sais pas, je vous avoue, je l'ai à peine lu, mais bon, ça peut être rigolo si on a le temps, je suis pas sûr. Pour les filles, la tendance, le top 10 2023, vous avez Jade, Louise, Emma. Bon, ça fait un moment que c'est un peu cela depuis pour les filles depuis quelques années. Ambre, Alice, Alba, Rose, Anna, Romy, Mia. J'aime bien Mia, moi. Garçon, Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur, Louis, Jules. Ah, on a un Jules, nous, parmi les modos, là. Salut les modos. T'es là, Jules? Il est là. Anonyme 31, Captain McBurney, Gandalf Listari, Gugo 72, on a des nouveaux modérateurs qui sont arrivés là ce week-end. Julo 18, Harmony, la fille du Père Noël, petit dragon vert de rage, oh là là, vous êtes tellement nombreux et tellement cool. Donc voilà, bah Jules, t'es dans le classement. Jules, Maël, Adam, Gabin et Noah. Bon, je vous le dis maintenant parce que je suis pas sûr de pouvoir vous le lire tout à l'heure. Le Parisien, un dernier article. Là aussi, c'est si on a le temps. Dans ce stream qui sera interrompu aux alentours de midi parce que j'attends un technicien à la maison et je m'en excuse. La rentrée télé. Alors on est d'accord que ce n'est pas l'actu principale d'aujourd'hui, mais ça m'intéresse, c'est sur ma chaîne, c'est sur France 3. Vous savez qu'il y a une polémique d'ailleurs. Des chiffres et des lettres passent de la semaine au week-end, ne disparaît pas complètement, mais beaucoup moins exposé, bien sûr, et est remplacé par un nouveau jeu avec Cyril Ferraud qui s'appelle Duel en famille. J'ai pas lu l'article, si on a le temps, on verra quel est ce nouveau jeu. Quel est ce nouveau jeu? Ça, c'est un peu plus important. Un autre dossier économique. Il y a beaucoup d'économies dans vos journaux ce matin, mais une économie qui a un lien direct avec parfois notre quotidien. Il y a deux choses en une de Libé, vous verrez, c'est, il y a l'US Open qui arrive. Donc vous avez pas mal de portraits sur Serena Williams, qui est sur la fin de sa carrière, hein. C'est sans doute son dernier grand chelem. Bon, moi je vous ai lu pas mal d'articles sur Serena Williams, donc je ne vous ai rien mis de côté là-dessus. En revanche, ce débat sur les super profits, il rebondit. Je vous parle des super profits réalisés par les grosses entreprises françaises ces derniers temps, notamment pendant la crise sanitaire, notamment à la faveur de l'explosion du prix de l'énergie. Je pense à Total par exemple. Et il y a un débat qui est lancé notamment par la gauche. Il y a Joe qui est là? Il y a Joe qui est là. Ça va, Joe? Ouais, Joe, mon ami Joe. Ah, ça va? Et Joe, c'est donc mon partenaire de crime sur certains streams. Et donc, il était à la maison vendredi soir, bien sûr, pour l'hebdo Étienne. Joe, le réalisateur. Et on s'est pas mal, on a pas mal échangé hier parce qu'on vous prépare. Allez, disons-le, on leak un peu. Hein. On vous prépare un nouveau stream dans un musée. Dans un musée. Hein, après le Louvre, le musée d'Orsay, la fondation Louis Vuitton. Et hier, on a échangé. Hier soir, je l'ai harcelé de texto pour le train, pour le train, pour l'horaire du train, parce qu'on y va en repérage technique, après on y retourne pour le live et l'hôtel et tout. Je me suis occupé de tout. Et donc, alors vas-y, est-ce que c'est bien comme ça, comme horaire pour le train? Redonne-moi ta date de naissance pour les billets de train, tout ça, voilà. Donc, vous avez compris que du coup, c'était pas à Paris et qu'on va bouger dans quelques semaines, voilà. Donc, Joe est avec nous. Donc, le débat sur les super profits, c'est est-ce qu'il faut taxer les super profits des grosses entreprises? C'est la gauche, la NUP notamment, qui met la pression sur le gouvernement là-dessus. Peut-être, mais c'est pas sûr du tout, des annonces d'Elisabeth Borne en début d'après-midi, pas sûr. Hein. Elisabeth Borne qui, en fait, vers 14h, rien à voir avec la fusée, mais c'est à peu près à la même heure, va parler devant l'université d'été du MEDEF. Donc les patrons, est-ce qu'elle va annoncer des trucs sur les super profits, la taxation des super profits? Vous voulez mon sentiment? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que le gouvernement déjà, à plusieurs fois déjà, à plusieurs reprises, a vraiment clairement dit qu'ils n'étaient pas pour plus d'impôts pour les entreprises, pas de super taxes sur les super profits. Voilà. Là, ce week-end, dans le JDD, je crois, la première ministre a dit, ah oui, pourquoi pas, faut laisser la porte ouverte à cette idée. Mais je crois pas. Je crois pas qu'ils iront sur ce terrain-là. Voilà. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. On verra. Mais je crois pas à des annonces aujourd'hui en tout cas. Et puis vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, mais c'est quoi cette histoire de mission Artemis, là, de décollage depuis Cap Canaveral, de cette grosse fusée américaine vers la Lune? Ah ben, je vous ai mis un beau dossier de côté. Alors déjà, ceux qui étaient dans la matinale de France Info sur le canal 27 ce matin, donc 6h30, 8h30, ou avec nous de 6h à 6h30 sur France 2, vous avez eu toutes les infos parce qu'on vous a fait pas une édition spéciale, mais on vous en a beaucoup parlé ce matin de ce décollage attendu, sauf report pour des raisons techniques, puisque Defecator dans le chat, on disait tout à l'heure qu'il y avait peut-être un problème sur le remplissage de la cuve à hydrogène qui est prévu aux alentours de 14h30, 14h33 cet après-midi, heure française, édition spéciale sur France Info, sur le canal 27. Je vous lirai ce dossier dans Libération. Je prends l'Humanité qui consacre également sa une à la taxation pardon, des super profits. La gauche met Macron au défi, c'est le même angle que Libération. Je vous ai mis un édito de côté dans l'Humain pour voir le regard de l'Humanité, qui est un journal qui est évidemment très à gauche, hein, qui est historiquement lié au Parti communiste, sur cette question. De temps en temps, je vous donne la ligne éditoriale du journal pour vous la rappeler, le Figaro, Libération, le Parisien, les Échos, la Croix, l'Opinion, tous sont des journaux qui ont des grilles de lecture, qui ont des regards éditoriaux sur l'actualité qu'il faut connaître, bien sûr, pour bien décrypter l'actualité qui nous est donnée, notamment quand c'est dans le cadre d'un éditorial où le journaliste et où le journal donne son avis. Ça, c'est un sujet dont on parlera tant que il n'y a pas de progrès sur les chiffres. Le nombre de féminicides en France a augmenté, selon les statistiques officielles, en 2021, les derniers chiffres qu'on a, de 20%. 20% de plus de féminicides en 2021 par rapport à 2020. Voilà. Et l'Humanité souligne que bah, ça montre le peu d'effets des mesures prises par les autorités, notamment par le gouvernement pendant le dernier quinquennat, le peu d'effet de la grande cause nationale même qui avait été décrétée par l'exécutif sur cette question des féminicides. Donc ça, c'est un sujet, là encore, sur lequel un pays comme la France doit avancer. Ça n'est pas possible. Voilà. Voilà pourquoi je vous l'ai mis de côté. Je vous parlais d'Elisabeth Borne qui sera devant le MEDEF cet après-midi avec un discours aux alentours de 14h devant le syndicat patronal. Elle est à une des échos. Je ne pense pas qu'elle parle de taxation des super-profits cet après-midi, mais je peux me tromper. En revanche, elle est quasiment sûre qu'elle va appeler les entreprises à la sobriété énergétique. Elle va demander aux entreprises, je vous résume le truc que je développerai tout à l'heure, de faire attention, de faire des économies sur leur consommation d'énergie, d'électricité, de gaz, là, maintenant, pour éviter quoi? Une pénurie cet hiver. Sinon, le gouvernement dit, faites-le, parce que sinon, c'est nous qui allons prendre des mesures pour éviter la pénurie cet hiver. Sachant que le gouvernement dit depuis un moment déjà, s'il y a des pénuries, c'est les entreprises qui seront frappées, les grosses entreprises, notamment les industries, qui devront limiter, ralentir ou stopper leur production parce qu'on ne coupera pas le gaz et l'électricité aux Français, aux particuliers. Voilà. Donc, ils demandent un effort. C'est ce qui va, à mon avis, c'est ce qui va être dit cet après-midi au MEDEF. Ils demandent un effort aux entreprises et s'il n'y a pas d'effort, eh ben, il y aura sans doute des mesures. Puisqu'on risque de manquer d'énergie cet hiver. Voilà. Alors, à propos d'énergie, dans le cahier Les Échos, entreprises et marchés, je vous ai mis un truc de côté. C'est mignon. Tout à l'heure, sur Twitter, j'annonçais le stream. Puis, il y a quelqu'un qui me pose une super question, qui me dit « Alors oui, j'ai bien compris. Le prix du gaz monte, le prix de l'électricité monte. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» Eh bien, j'ai dit à cette personne sur Twitter, je lui ai dit bah, « Viens chercher bonheur. Viens chercher bonheur à la maison. Viens sur Twitch, viens dans la matinée, tiens, je vais te lire Les Échos. Pourquoi les prix du gaz et de l'électricité atteignent des niveaux stratosphériques ? Hein, y a, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, mais il y a aussi le nombre de centrales nucléaires françaises qui sont actuellement arrêtées. Il y a plusieurs raisons. Eh bien, on va tout comprendre là-dedans. On va tout comprendre là-dedans. Voilà. Merci Les Échos. Écho. Désolé, je ne fais jamais cette blague d'habitude, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le Figaro. Ça, c'est une question importante. D'ailleurs, il n'y a pas la réponse dans le Figaro parce qu'elle est bien compliquée. Quel cap pour cet exécutif, pour ce gouvernement, pour ce président en matière de politique environnementale, hein? Bon, l'été nous a tous bien fait comprendre que le réchauffement climatique, les bouleversements climatiques étaient bien là. Les orages, les forêts qui brûlent, les trois épisodes de canicule, etc., etc. Bon, okay. Je crois que pour les derniers qui en doutaient, c'est à peu près clair. Enfin bon, à part deux, trois énervés qui pensent que la Terre est plate aussi. Mais ça, c'est pas très, très grave. Donc ça, ok. Et maintenant, quelle politique, dans un pays comme la France, quelle politique environnementale pour ceux qui sont au pouvoir actuellement ? Macron cherche le cap d'une écologie de crise. Le Figaro nous dit, pour l'instant, il n'y a pas de cap. Et le Figaro, eux, ils ont à peu près une idée du cap, voilà. Eux, ils ne sont pas du tout comme un autre journal qui s'appelle L'Opinion pour la décroissance. Ils disent « Oh là là, ça c'est un truc... » Vous vous rappelez quand le président Macron avait parlé des Amish, tout ça ? Voilà, c'est un truc pour les Amish, la décroissance, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais non, on va y arriver par la croissance, par la science, par... Ta, 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 ta. Ça, c'est la ligne du Figaro. D'où le titre de cet édito, qui va en énerver certains. « Gare à l'écolo-démagogie ». Bon, ça, c'est la ligne du Figaro, qui n'est pas la ligne de Libération, qui n'est pas la ligne de l'Humanité, par exemple. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de lire plein de journaux différents. Comme ça, on voit les arguments, on les intègre, on réfléchit. Chacun se fait sa petite opinion, son petit avis par rapport à ça. Et puis, on finira avec l'équipe. Il y a plusieurs choses intéressantes dans l'équipe. Il y a les résultats du week-end. Le PSG allait-il gagner son quatrième match en quatre journées de championnat ? Eh ben non, parce que les Monégasques ont fait un très beau match. Donc, un partout. Donc, premier petit accroché titre l'équipe pour les Parisiens. En revanche, l'OM, je ne sais pas si les supporters de l'OM... Dans le chat, a fait un méga match, 3-0 contre Nice, à l'extérieur, je crois en plus. Ouais, à l'extérieur. Donc là, très bon début de championnat aussi pour l'OM. Bravo. Voilà. Pour ceux qui ne seront pas avec nous, tout à l'heure, je vous donne le classement général. Vous avez le PSG en tête avec 10 points. L'OM, deuxième avec 10 points. Ça se joue à la différence de but. Lens, bon début de championnat aussi, troisième. Après, vous avez Lyon qui a un match en retard. Lorient, et tout en bas, vous avez Angers, Nice, Reims, Ajaccio. Et puis, à propos de sport, l'affaire Pogba. Alors ça, c'est une dinguerie. Désolé, Caradoc pour Angers, j'avais pu. Ça, c'est une dinguerie. Une affaire qui mélange le football, les sous, la famille. Une affaire qui est en train de se judiciariser, qui met notamment, comme le dit Janvier TV, c'est maman qui doit être contente, qui met notamment aux prises deux frères, Paul Pogba, et puis l'un de ses frères aînés, Mathias, qui se répand sur les réseaux sociaux, qui fait des communiqués super bizarres, super mystérieux. Il dit qu'il va balancer quoi, on sait pas trop, sur son frère, sur Kylian Mbappé. Très étrange. Il y a une enquête en cours, les avocats sont saisis de tout ça. Il se dirait que Mathias Pogba, avec des copains à lui, aurait voulu faire chanter son frère. Son frère lui aurait demandé 12-13 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il y a, un truc qui va pas là. Alors, bon, voilà, ce matin, on a essayé de vous expliquer ça sur France Info. dans la matinale avec Jean-Seb Fernandez qui a fait sa rentrée, notre spécialiste sport. Là, c'était assez clair. On avait un sujet dans le journal aussi avec Elodie l'Argenton qui présente le JT. Et puis ben, cet article de l'équipe nous explique ça assez clairement. Une dinguerie cette histoire. Voilà les amis. 50 minutes, salut, bonne journée. J'ai passé un bon. Non, c'est pas vrai. Donc, 50 minutes, on s'est pris de ces nouvelles, on s'est raconté des trucs, on a fait coucou à Joe, on a fait un mini sommaire, on a fait un sommaire un peu plus développé, et maintenant, on va prendre le temps. On va lire tous ces articles, enfin, j'espère avoir le temps, puisque je vous le rappelle et je m'en excuse par avance, bah, je ne serai pas. Normalement, j'ai un technicien qui va sonner à la maison à midi, et je vais devoir arrêter mon stream parce que je dois lui montrer des trucs. Voilà. Donc je suis désolé parce que normalement je fais plutôt 3 heures quoi, 3 heures minimum, et là ça va être un. Ça peut être un stream de 2 heures. Allez, avec un peu de chance, il sera en retard. Hein? Est-ce que Joe est avec nous toujours? Joe, bah, il suffit que j'aille voir parce que t'es VIP mon chouchou. Il est parti Joe. Joe, t'es là? Il est parti. Oh là. Joe. Il est parti, Joe. Je voulais lui demander qu'est-ce qu'il pensait de mon nouveau son. Joe, allez, Joe. Il est pas là. Je le vois plus dans le. Il est parti. Oh là là. Quel tir au flanc celui-là. Il y aura le quiz quand même. Ouais, pas sûr qu'il y ait Malo qui fasse son quiz parce que. Bonne blague de Jérôme, il a pris le taxi de Joe. Excellent. Non, parce que Malo, il part au parc ce matin. Il a donné sa démission? Ah ben non, parce que faut pas que Joe donne sa démission, Cletus Bright, parce que Joe, bon, je peux le dire, il est parti. Joe, tu sais, j'ai fait une première saison sur Twitch qui était passionnante, qui était super. Voilà, 4 mois, tambour battant, rythme effréné, on a fait des dingueries, on a invité des gens, c'était la folie. C'était, je me suis régalé. Et puis, après, j'ai fait une petite pause parce que j'essayais de trouver un cadre carré voilà, pour m'installer dans le stream, tout ça, dans mon quotidien, dans mon rythme de travail, dans mes relations avec mon employeur, avec France Télévisions, tout ça. Il fallait que j'aie l'accord pour ouvrir les subs, tout ça. Bon, ça a pris du temps. Et puis, je me posais aussi des questions sur cet outil, cet univers, cette plateforme. Et il y a une personne qui m'a vachement bien accompagné, qui m'a vachement bien conseillé, qui m'a expliqué plein de choses aussi sur des aspects que je ne connaissais pas très très bien de Twitch, notamment les interactions entre streamers avec les autres streamers et tout, qui m'a donné plein de clés avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Il n'est pas là, donc j'en profite. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est quelqu'un humainement comme on n'en rencontre pas beaucoup, voilà, dans aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un de qui est attentif aux autres. Pas que je parle pas de moi. Hein. Qui est attentif aux autres, qui fait attention aux autres. Comme peu de gens font attention aux autres, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Donc, et moi, il est pour beaucoup aujourd'hui dans le plaisir que j'ai sur Twitch, voilà, parce qu'il il crée des voilà, il me rassure, il me rassénère, je sais pas si ça se dit ça, voilà, quand j'ai une question, voilà. Je vous parle pas de technique, hein, c'est plus un voilà de, voilà dans mes, quand, on, il faut se poser des questions sur ce qu'on fait et voilà quand je il est toujours d'un avis intéressant voilà donc là je vous parle de Joe voilà. Joe Coco JOWCOCO si vous cherchez son sur les réseaux sociaux, il a un Insta, il fait de la photo aussi, il est passionné de photographie, il a son compte Twitter, et puis il stream aussi de temps en temps. Notamment, il stream de la photo, de la retouche de photo, parce que c'est un des trucs. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Sergi, Serre de Gryffondor, dit qu'il est beaucoup aussi Joe dans le dérèglement de ma table de mixage. Bah, il peut pas avoir bon partout. Hein. Il n'arrête pas de foutre en l'air mes réglages. Ah bah d'ailleurs, il y a Jules qui vient de nous mettre dans le chat le compte Insta de Joe. Voilà, n'hésitez pas, c'est un mec super. Ok, bon, maintenant on y va, hein. Ok, je remercie les subs, comment je prononce, merci en tout cas pour ce prime, Aude Vizine, merci pour ce sub, Nice12, merci pour ce 8e mois d'abonnement, Codis, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure, mais je le refais, Flavius Aesus, va voir le replay, c'est gratos. Ophusius, merci pour le prime, et Alexandra, non, je fais plus les streams post-déjeuner à la question pour un champion, c'est trop court. C'est trop court. C'est trop court, c'est pas assez long. Un stream, quand c'est trop court, c'est pas ça, ça le fait pas. Bon anniversaire, Hyper Nico. Bon anniversaire. C'est bien sûr que c'est tous les vendredis d'Hebdo Etienne, qu'est-ce que vous croyez? On y va, on lit un peu les journaux. Allez, on commence avec le Parisien, il y a plein de choses dans le Parisien. Ce matin, paf, d'abord, pour moi, le sujet du moment, les pistes pour amortir le choc, hein, c'est la flambée des prix de l'énergie, de l'électricité, notamment hein, en France et puis partout dans le monde. Afin de soulager le budget des ménages, le gouvernement envisage l'an prochain de prolonger le bouclier tarifaire. Voilà. Mais à quel niveau? Est-ce que tout le monde continuera à être protégé hein, de ces augmentations énormes de l'électricité, du gaz? Et bien ça, on ne sait pas. Et les Français seront incités à diminuer leur consommation lors des pics de demande, croit savoir le Parisien. Je vous lis un édito, l'éditorial de Jean-Michel Salvatore, je crois, là-dessus. Vertige. Tout le monde a bien compris que depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie explosent. Mais dans quelle proportion? Rien de tel qu'un cas concret pour toucher du doigt l'ampleur de la crise. L'exemple que nous présentons dans Le Parisien aujourd'hui est saisissant. Une copropriété d'un immeuble qui n'est pas éligible au tarif réglementé de l'électricité pourrait voir sa facture de chauffage passer, donc c'est un exemple très concret, hein, d'une vraie copro qui existe en banlieue parisienne, en région parisienne, pourrait voir sa facture passer l'hiver prochain de 49 000 euros à 330 000 euros. Vous avez un immeuble dont les charges de chauffage vont passer là en France, là, de 49 000 à 330 000 euros l'hiver prochain. Voilà. Comment ça, pas éligible, demande C'est Triste en live. Eh bien écoute, moi j'ai découvert par des recherches ce matin qu'en fait, les tarifs réglementés, notamment d'électricité et du gaz, sont en train de disparaître. D'abord pour les collectivités, les propriétés. Et donc, au-dessus d'une certaine taille, par exemple, vous avez déjà des copropriétés qui ne peuvent plus prétendre aux tarifs réglementés. Alors là, par exemple, on va faire une recherche sur l'électricité. Voilà. Et ça, je pense qu'on va en parler de plus en plus. Regardez ce que j'ai trouvé là. Donc là, on est sur un site officiel. On est sur le site du médiateur de l'énergie. Voilà. Voilà. Donc les tarifs réglementés de l'électricité, moi, c'est ce que j'ai par exemple, hein. Parce que de temps en temps, vous recevez des offres. Moi, j'ai reçu plein d'offres sur allez, passez la concurrence, le privé, là, on vous assure, ce sera moins cher et tout. C'est moins cher à l'instant T. Sauf que dans le contrat, c'est marqué oui, alors si les prix si les cours augmentent, eh ben, nous, on pourra aussi augmenter, bien sûr, nos prix. Mais vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Bien sûr. Avec le tarif réglementé, t'as pas de surprise. Eh ben, je ne regrette pas aujourd'hui d'être au tarif réglementé. Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont proposés uniquement par EDF, le fournisseur électrique, sur 5% du territoire par une entreprise locale de distribution. Voilà. Les consommateurs particuliers, les immeubles d'habitation, les copros, ne sont pas concernés par la fin des tarifs réglementés de vente d'électricité. Sauf pour les contrats d'une puissance supérieure à 36 kVA, c'est kilowattheure, je ne sais plus. Bref. Donc, pour certaines copropriétés importantes, les tarifs réglementés ont déjà été supprimés. Les tarifs réglementés de vente d'électricité ont été supprimés le 1er janvier 2021 pour les professionnels, pour les entreprises, pour les collectivités. C'est kilovolt ampère ? Merci. Pour les associations, voilà, celles qui emploient plus de 10 personnes. Voilà. Donc, en fait, vous avez déjà les entreprises, les grosses assos, les collectivités et les copropriétés d'une certaine taille qui déjà ne peuvent plus prétendre au ça me permet de revenir à l'article, au tarif réglementé de l'électricité dont on voit bien aujourd'hui qu'il protège ceux qui y sont abonnés. Aujourd'hui, vous avez des fournisseurs alternatifs d'électricité qui augmentent ou vont augmenter leurs factures, voire même qui se débarrassent. Je vous ai pas lu des articles là-dessus, mais j'en vois régulièrement qui se débarrassent de leurs clients en disant attendez. C'est plus du tout intéressant pour nous, on se retire du marché, vous n'avez qu'à retourner ailleurs. Quoi. Voilà. Et donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une évolution qui va se poursuivre ? Voilà. Est-ce que après les entreprises, les grosses copros et tout, est-ce que demain, ces tarifs réglementés vont aussi disparaître pour les particuliers ? Moi, par exemple, je suis chez EDF parce que ça fait longtemps que je me dis que c'est l'histoire de concurrence, de machin, d'abonnement moins cher. Ouais, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours voulu rester chez le fournisseur historique. Et aujourd'hui, j'en suis bien content. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça va pas disparaître? Vous êtes plusieurs à me dire que c'est déjà prévu pour le gaz pour 2023. Voilà. Bon, ça. Attendez-vous à ce que nos factures de gaz et d'électricité dans les prochaines années augmentent. Donc, là, un exemple concret, une copro qui va voir sa facture de chauffage passer de 49 000 à 330 000 euros l'hiver prochain. Voilà quelle serait la situation des Français sans le bouclier tarifaire, écrit le Parisien. Donc moi, je vais plus loin, je dis, bah alors, si un jour le bouclier tarifaire disparaît, ouh, ça va être chaud. Alors après, peut-être que les prix de l'électricité et du gaz, dans quelques années, quelques décennies, vont baisser parce qu'on aura mis de nouveaux moyens de production, hein, peut-être, hein, soyons un petit peu optimistes. Enfin bon, quand même. En tout cas, aujourd'hui, les augmentations des prix de gros ont de quoi donner le vertige. Pour le gaz, écoutez bien, le seuil des 320 euros le mégawattheure a été franchi la semaine dernière. Il y a 10 ans, les prix se situaient autour de 15 euros. On est passé de 15 euros le mégawattheure à 320 euros. 20 fois plus en 10 ans. L'électricité, la semaine dernière, record de 1 000 euros pour 1 mégawattheure. Voilà, 1 000 euros le mégawattheure sur le marché, alors que le consommateur, au tarif réglementé, ne paye que 70 euros. 70 euros. Normalement, si aujourd'hui, si vous payez le prix du marché, il faudrait payer 1 000 euros le mégawattheure. On le paye 70 euros chez EDF. De telles augmentations sont insoutenables. La première ministre, Elisabeth Borne, l'a reconnu hier dans Le Parisien. Les Français peuvent être rassurés, nous amortirons les hausses, nous n'allons pas laisser les prix de l'énergie exploser. Ça, c'est ce que promet le gouvernement français. Contrairement aux Anglais, qui eux vont voir, je vous le disais, cet automne, leur facture augmenter de 80%, et le Parisien dit, le problème, c'est que après le quoi qu'il en coûte du Covid, eh bien, voici le quoi qu'il en coûte de l'énergie qui va lui aussi coûter cher aux finances publiques. Hein. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas le consommateur qui paye la facture, il faut bien que quelqu'un la paye. Sur l'année 2022, le coût pour les finances publiques dépasse largement les 20 milliards, uniquement pour le gaz et l'électricité. Et le Parisien écrit, un tel bouclier énergétique ne pourra pas être aussi généreux très longtemps, sauf les plus modestes, et le gouvernement est en train de nous y préparer. Elisabeth Borne, elle commence à dire, alors on va maintenir le bouclier tarifaire, une partie du bouclier tarifaire pour certains ménages, pour les plus modestes, bien sûr. Puisqu'on s'attend à une guerre d'usure entre l'Ukraine et la Russie, les tensions sur les prix vont durer, les consommateurs en paieront forcément une partie, donc là le Parisien nous prépare, et il faudra aussi du temps pour remettre en route toutes nos centrales nucléaires, 24 sur 56 sont en maintenance actuellement, pour faire face. Alors du coup, comment on fait? Comment on fait? La seule solution est de faire des économies, nous dit le Parisien. On parle désormais de plan de résilience, de frugalité ou de sobriété. Derrière ces doux euphémismes se cachent des changements profonds de comportement. La chasse au gaspillage doit devenir l'obsession pour tous. Allons. Pour payer moins, évidemment, mais aussi pour éviter les coupures cet hiver. De ce point de vue, le temps de l'abondance, ah, décidément, on en parle beaucoup en ce moment, eh bien, révolu. Voilà pour cet édito du Parisien qui éclaire, je trouve, bien le problème. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. Joli, 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 joli. Joli, 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 joli. Ouais, le toboggan, t'as raison. Précise, 1 000 euros, c'est le prix spot, donc du dernier mégawattheure, et pas du tout le prix moyen, faut être précis. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Alors, dès qu'Adrien me pose une question, je n'ai pas la réponse, on va essayer de la chercher. Il n'y aura plus de tarifs réglementés pour le gaz en 2023 pour les particuliers et les copropriétés. Faisons cette recherche ensemble. Faisons cette recherche ensemble. Je ne sais pas. Je vous avoue que c'est un sujet qui n'est pas très présent dans les journaux. Voilà. Alors, fin, on va taper fin, tarif réglementé du gaz. Ah ouais, bah, je vois 2023 là. Non, gaz. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas bossé. Alors. Quand s'arrête le tarif réglementé du gaz? Oh! 1er janvier 2023. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là là. Paf. Le site énergieinfo.fr, c'est le site d'information du médiateur national de l'énergie, autorité publique indépendante. Quand on trouve une info, toujours regarder la source, quelle est la source. Est-ce que c'est Tonton Michel sur Facebook à l'apéro qui vous affirme quelque chose avec beaucoup d'assurance en disant oui, moi je sais, ou est-ce que c'est un truc un peu carré? Bon, là on se dit que le médiateur national de l'énergie, bon, ça semble assez carré. Les tarifs réglementés de gaz naturel vont disparaître le 1er janvier 2023. L'ensemble des tarifs réglementés du gaz naturel sera supprimé le 1er juillet 2023. Pour les clients résidentiels et les petites copros, ce sera le 1er juillet. Pour les autres types de clients, professionnels, collectivités, grosses copros, les tarifs réglementés ont déjà été supprimés. Fin des tarifs réglementés du gaz naturel le 1er juillet 2023. Bon, bah moi j'ai plus. Moi j'ai pas de gaz. J'ai supprimé le gaz. Alors maintenant, on flippe. Est-ce que est également prévu une fin du tarif réglementé de l'électricité? Bon, attention, ça c'est la loi, hein. Après, la loi, ça se change, hein. Il suffit que la majorité actuelle ou qu'une nouvelle majorité, bien sûr, décide autre chose. En l'état actuel de la loi, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une fin du tarif réglementé de l'électricité prévue, notamment pour les particuliers? Tac. Le même site, Énergie Info. Alors, pour les professionnels, ça a disparu le 1er janvier 2021. D'accord. Et là, pour l'instant, on ne parle pas des particuliers. Il y a Sexitor qui m'inquiète parce qu'il dit que ça ne changera pas parce que ça vient de directives européennes. Alors, toujours sur ce site qui est plutôt bien foutu, est-ce que les tarifs réglementés vont être supprimés concernant l'électricité? Non. Donc pour les grosses puissances, ça a été supprimé déjà. Donc pour l'instant, voilà. Donc pour le gaz, oui, bah voilà, c'est clair. Pour le gaz, oui. Non mais c'est bon là, c'est clair. Pour le gaz, oui. Pour l'électricité, non. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, j'ai des textos, j'ai des textos, j'ai des textos. Je regarde si la caméra zénithale ne filme pas mes textos, parce qu'après, ça leak des trucs. Alors, regardez, l'amour. Pourquoi le gaz et pas l'électricité? Eh, hey, j'ai pas toutes les réponses, hein. Je commence à bosser là-dessus. Mais quelque chose me dit que dans les journaux, dans les prochains jours, semaines, mois, vous aurez pas mal d'articles sur ces questions parce que on voit que ça nous impacte directement. L'amour, l'amour, l'amour. Message d'Hélène, texto d'Hélène. J'ai trouvé une desserte à roulettes. Vous savez que mon stream est un petit peu mobile pour qu'il puisse se promener dans la maison pour streamer dans cette pièce ou dans une autre ou dans la salle à manger, comme vendredi dernier. J'ai trouvé une desserte à roulettes pour organiser le déplacement de ton matériel de stream du vendredi. Est-ce que je peux te l'acheter avec Gazexa? Il y en a pour 60 euros. Voilà. Là, je vous montre. Voilà. Alors, ça, c'est 39 euros. Est-ce que mon amoureuse veut se faire du bénef? Veut se faire du bénef? C'est quoi, c'est Ikea ça? Est-ce que Hélène est en train de se faire du bénef sur truc? À roulette. Voilà. Top ça. Ah, il y a des bacs. Ah non, non. Et avec des bacs pour les câbles. C'est l'amour ça. C'est l'amour ça. C'est l'amour ça. Alors déjà, là vous le savez les habitués, mais ce stream est déjà à roulette. Hein. Voilà. Sauf que maintenant j'ai un espèce de deuxième setup qui est un peu plus évolué grâce à Joe, voilà, pour les streams du vendredi, quoi. Avec plein de matos qu'il m'a prêté notamment. Voilà. Donc ce serait un deuxième stream à roulette. Elle est parfaite. C'est l'amour, c'est l'amour. Un petit déambulateur. Dis donc, Laurence, on se moque du streamer comme ça? Allez, je remercie dernier sub et on enchaîne. PSK 667, merci pour ton prime qui va servir à participer à l'achat du déambulateur. Tony Ops, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Matraque, merci pour ton prime. Pulsar, Quasar, Nebula, merci pour le cinquième mois d'abonnement et le gentil message pour l'émission de vendredi. Oh, j'avais pas vu tous les subs. Ophusius, merci pour le prime. MRT Hommage, je t'ai remercié tout à l'heure. Alors, parfois vous vous demandez à quoi servent les subs. Bah, les subs, là, aujourd'hui, vont servir notamment à acheter la petite table à roulettes. Et les bacs, voilà, pour le stream du vendredi. Le Parisien toujours, tout va bien. Une heure de stream, on n'en a que 2 heures ce matin et je vous ai lu un article. Je suis totalement, totalement dans les clous. Vraiment, je suis vraiment totalement dans le rythme. Non, pas du tout, on est super à la bourre. Je vous signale, du coup, je ne vous lis pas. cet article dans Le Parisien, page 4, sur ce qui se passe dans les autres pays en Europe sur cette même question. Voilà. Et ça flambe. Ça flambe, notamment au Royaume-Uni, dans pas longtemps, plus 80%. On est en train de calculer que le coût annuel par ménage en Belgique pourrait atteindre 8000 euros. 8000 euros. Voilà. Nos voisins subissent de plein fouet cette flambée. Si vous voulez savoir à quelle sauce énergétique sont mangés nos voisins, eh bien, c'est dans Le Parisien. Là, il y a une manif à Londres. Hein, vous êtes de plus en plus de citoyens britanniques qui ont décidé de ne plus payer leurs factures en disant « c'est n'importe quoi votre truc ». Donc, il y a un mouvement qui est en train de grandir en Grande-Bretagne de gens qui ne payent plus leurs factures d'énergie. Et là, vous avez une manif « Are you fucking joking ?» dit cette pancarte. Voilà. « How can I pay my landlord's mortgage now ?» Voilà. Comment je peux rembourser mes intérêts dans prêt immobilier, c'est ça ? C'est chaud, grosse tension sociale actuellement en Grande-Bretagne. On va reparler de l'énergie ce matin dans d'autres journaux, mais moi je voulais absolument vous lire ça, parce que c'est important. On n'y est pas, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. L'accueil des élèves en situation de handicap en France est toujours insuffisant. Manque de moyens d'agents de formation, la Défenseur des droits, qui est une institution, comme Le Parisien l'a déjà révélé, eh bien, c'est confirmé, s'alarme de l'accompagnement défaillant à l'école des 4000 enfants en France porteurs de handicap. Je vous lis cet article, c'est essentiel de parler de ça. C'est drôle qu'on parle d'énergie, puis il y a une pub de la Société Générale sur les réductions des émissions de carbone. Ok, donc déjà la dame, il faut qu'elle apprenne à mettre son casque. Hein. C'est pas possible ça. C'est une pub, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a des publicitaires qui ont bossé là-dessus. Hein. Il y a des mecs qui ont validé le visuel. Là. C'est quoi ce casque-là ? Le casque, c'est... Non, le casque, c'est pas comme ça. Hein. Voilà. Tiens, je vais mettre un casque, mais je vais pas protéger mon front. Je vais plutôt le mettre derrière, là. Comme ça, si jamais je m'explose... voilà. Comme ça, si jamais je me casse la gueule, le casque sera pas abîmé. Je pourrais le remettre. Sérieux, quoi. Bon. Pour moi, c'est un des articles les plus importants ce matin. En ce matin de rentrée scolaire, mon fils ne s'est pas levé avec son frère et sa sœur pour prendre le petit déjeuner. Non, lui, il n'a pas école parce qu'il n'a pas Daesh. On dit AESH ou on dit Daesh ? Accompagnant d'enfants en situation de handicap. AESH ou AESH ? Je suis sûr que vous savez. Je ne sais jamais. AESH. Ouais, parce que du coup, Daesh, ça fait bizarre. Car mon enfant n'a pas d'AESH accompagnant d'enfants en situation de handicap. Voici l'une des nombreuses saisines reçues par cette défense sort des droits, qui émane de la maman désespérée d'un petit garçon handicapé privé d'école une bonne partie de l'année, alors même qu'il s'agit d'un droit pour tous. C'est ce qu'on appelait les AES, me dit-on avant. Dans un rapport qui doit être publié aujourd'hui et que Claire Edon, la défenseure des droits, a dévoilé en exclusivité aux Parisiens, l'institution chargée de lutter contre les discriminations révèle qu'en 2021, 20% des recours concernaient des difficultés d'accès à l'éducation d'enfants handicapés. 700 dossiers, un chiffre qui est en hausse. Oui, AVS, auxiliaire de vie scolaire, c'est comme ça qu'on disait avant. Et maintenant, c'est AESH. Au cœur du problème, le manque d'agents pour les accompagner. Quand le handicap d'un enfant est reconnu par les autorités, celles-ci notifient son besoin d'accompagnement par un AESH ou un AVS. Ah, ce serait un petit peu différent. Bon, auxiliaire de vie scolaire. Sauf que trop souvent, faute de personnel, le besoin n'est pas comblé. Résultat, les familles préfèrent ne pas scolariser l'enfant, ou alors celui-ci est très mal pris en charge. Pire, parfois l'enfant est refusé à l'école. L'UNAPEI, qui est la principale association du secteur, s'alarme aussi du fait que des milliers d'enfants atteints d'un handicap ne seront scolarisés que quelques heures, voire pas du tout à cette rentrée. Selon l'étude qu'ils ont menée pour la première fois, sur un échantillon de presque 8000 enfants, 18% de ces enfants n'ont aucune heure de scolarisation par semaine, aucune. 33%, moins de 6 heures. 22% entre 6 et 12 heures seulement. 27% au moins 12 heures hebdomadaires. Par ailleurs, selon ce rapport, ces agents dédiés sont mal formés, sont très mal payés, ils touchent moins de 900 euros net par mois. Moins de 900 euros net par mois. Pour des contrats qui ne dépassent pas les 24 heures par semaine. De rendre impossible une continuité dans l'accompagnement, bien sûr, explique la défenseur des droits, de l'attractivité du métier d'AESH et d'AVS dépend la bonne prise en charge, confirme Claire Edon, qui ajoute que les situations bien gérées ont un impact positif sur les élèves non porteurs de handicap. La question concerne aussi les profs qui sont souvent laissés trop seuls dans la gestion de cette situation. Un exemple qui est situé dans le rapport de la Défenseure des droits, une enseignante qui, non formée à ce sujet, s'est aperçue en cours d'année que l'un de ses élèves ne comprenait aucune de ses consignes, lesquelles auraient dû être reformulées par un AESH. Elle a mis des mois à s'en rendre compte. Certes, les choses ont un peu évolué, reconnaît Claire Hédon, entre la rentrée 2017. Alors là, on dresse un tableau qui n'est pas positif. Mais Claire Hédon dit, ça ne va pas, hein, mais ça a été pire. Entre 2017 et 2021, 19% d'élèves porteurs de handicap ont été scolarisés, avec en parallèle une hausse de 35% du nombre d'AESH. Voilà. Ils sont, selon le gouvernement, plus de 430 000 enfants accueillis à cette rentrée, contre 410 000 l'an dernier. Donc les chiffres s'améliorent doucement, qui a même triplé en moins de 15 ans. Donc pas seulement sous l'exécutif précédent, mais sous les gouvernements précédents aussi, il y avait eu des avancées, des efforts. C'est-à-dire que c'était pire avant. Autre signal positif, la volonté annoncée par Emmanuel Macron au printemps de fournir aux AESH des contrats de 35 heures avec le salaire qui suit. Indispensable, juge Claire Hédon, reste à savoir quand cette mesure sera mise en œuvre. Ces avancées, ça n'est pas rien, il faut le souligner, mais c'est largement insuffisant. L'école inclusive ne fonctionne pas comme elle le devrait, renchérit-elle. 10 préconisations sont donc faites à l'adresse des ministres qui sont concernés, mieux former agents et enseignants, créer un outil statistique pour mesurer le phénomène, débloquer des moyens en conséquence, ce n'est pas à l'élève de s'adapter à l'école, martèle Claire Hédon. Mais le contraire. Voilà. Donc ça, le constat, c'est que ça a été pire, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Je voulais un petit peu en enchaîne. Indica, ils écrivent. Voilà, parce que c'est la force du nombre. Vous êtes 4000, un peu plus de 4500 là. Et parfois, vous connaissez très bien ce problème. Indicase, par manque de personnel, j'ai eu une AESH que pendant quelques semaines. Et après, j'ai dû me débrouiller seul pendant le reste de ma scolarité. Je vous lis. Ça fait des années que les enfants atteints de handicap ne peuvent pas être correctement scolarisés, écrit Ilana. C'est tellement dur d'avoir une place avec AESH qu'une amie est partie en Pologne afin d'avoir un vrai accès à l'école. Il existe plusieurs reportages sur ce sujet disponibles sur YouTube, nous dit Ilana. C'est le bordel, hein. Il y a Pig Uxac. Ma mère est AESH. L'éducation nationale ne lui a toujours pas convié d'enfant. On lui a juste indiqué une école, rien de plus. Même la directrice ne sait pas comment elle va être utilisée dans l'école. J.P.Zor, ma mère est AESH. Son revenu ne dépasse pas les 700 euros. On est loin des 900 euros. Voilà. La France, en la matière, peut beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Ouais. Bon, le constat, il est là. On espère que les progrès vont continuer. Beaucoup plus léger. Bon, je vais être rapide là-dessus, hein. Je ne l'ai pas lu, je vous le signale rapidement. Le palmarès habituel de rentrée sur les prénoms des enfants, c'est quoi? Selon l'officiel des prénoms qui sort jeudi. Ah, ils sont en avance, le Parisien. Voici les prénoms tendance, hein, sur lesquels miser. Eh, c'est pas des chevaux, les gamins. Pour être ni ringard, ni trop excentrique. Mais on fait ce qu'on veut. Putain, elle est affreuse, cette phrase. Les prénoms tendance sur lesquels miser pour être ni ringard, ni trop excentrique. Sérieux? Sérieux? The One Joker, merci pour ton prime que j'avais pas vu. PSK 667, merci pour ton prime. Tony Hops, merci pour ce cinquième mois d'abonnement. Matraque, je t'ai remercié, je sais plus. Sérieux. Qu'est-ce qui est intéressant, ce truc-là? Ouais, la nouvelle vague, les prénoms liés à la nature, le rétro. Oh, c'est un peu toujours les mêmes trucs. Voilà. Bon, le top 10 2023, je vous le donne. Donc, c'est les statistiques, hein, des enfants nés en France. Les prénoms les plus donnés à des petites filles en 2023, c'est 1 Jade. Non, mais ça, c'est. Il y a des gens qui disent n'importe quoi l'article. Bon, l'angle, on s'en fout. Mais ça, c'est des chiffres, c'est des statistiques. Donc, les prénoms les plus donnés en France aux enfants en 2023, c'est Jade, Louise, Emma, Ambre, Alice, Alba, Rose, Anna, Remy, Mia. Ah bah non, c'est pas, ça peut pas être statistique, c'est 2023. Qu'est-ce que c'est que cette statistique de caca là? Alors, il n'y a même pas de truc pour expliquer. C'est quoi, c'est des tendances? Ah! Qu'est-ce qu'ils font ça? Ce seraient les prénoms les plus donnés dans les mois qui viennent. Y a pas un truc qui marche pas dans la phrase? Voici les prénoms qui seront les plus donnés dans les mois qui viennent. Mais comment tu sais ça, toi? Comme le dit Octop, ils sont dans le futur, les gars. Et donnez-moi les numéros de l'Euromillion, là. Je m'en fous des... Eh. Je vais appeler l'officier de les prénoms. Allô, oui. Allô? Bonjour. Oui, l'officier des prénoms, oui, je suis en train de lire votre article dans le Parisien, c'est très intéressant, dites-moi. Donc, alors, vous connaissez tous les prénoms des gamins en 2023? Hein, les prénoms qui vont sortir. Non, non, moi je vous appelle pas pour ça. Pour l'Euromillion de vendredi. Allez-y, je note. Et donnez-moi les deux étoiles aussi, hein, parce que je veux. Connerie. Comment ils font ça? C'est quoi la méthodologie? C'est pas précisé, hein. Ah, méthodologie. On essaie de comprendre. Arrête de faire du mauvais esprit, Samuel Etienne. Si elle s'appuie sur les chiffres annuels de l'INSEE publiés au mois de juin sur base des prénoms donnés l'année précédente, ces spécialistes font subir aux 12 000 propositions rassemblées dans l'officiel un traitement statistique de haut vol. Oh putain, il est bon cet article. Pour identifier les évolutions à prévoir dans les mois et les années à venir. Mais... Nostradamus. Donnez-moi les prix du gaz et de l'électricité aussi, ça m'intéresse plus. Ok. Voici donc les prénoms sur lesquels il est possible de miser. Allez, let's go au PMU. Non, on s'en fout. Allez, horoscope. On va rigoler un petit peu. Horoscope, le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat. Il a gagné ses Verseaux qui gagne. C'est in live, un habitué. Pour ceux qui sont là pour la première fois, quand on lit le Parisien. Et notamment que je dis horoscope, le voici l'horoscope, le premier, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat, on lit l'horoscope, en vrai on n'y croit pas du tout, mais ça nous fait marrer, et donc c'est Verseau, c'est Said in Live qui a été le plus rapide ce matin, je vérifie parce que non, non, pas du tout, rebondissement de dingue, Olive Big a été beaucoup plus rapide avec Sagittaire, Olive, en fait c'est Sagittaire, désolé Said in Live, c'est Sagittaire, c'est Olive Big qui a gagné, tintin. Alors c'est quoi Sagittaire? Sagittaire. Ah, cœur. Vos sentiments sont profonds et sincères, mais vous ne saurez pas les exprimer. Ça sert à rien. Du coup, réussite. Votre attention et votre temps seront monopolisés par une affaire urgente. Ok. Forme, morale en baisse. Ouais, pas super votre horoscope. Les Sagittaires. Bon, enfin, ça pourrait être pire. Voilà. Bon, c'est bon pour le Parisien. C'est bon. 1h23. Il me reste 37 minutes de stream. J'ai à peu près 2500 articles à vous lire. Je suis dans les temps. Soukrou, Malalachou, merci pour ce 11e mois d'abonnement. Flavius, ah, te voilà. Esus, que j'ai lu tout à l'heure, 14h53. Merci pour les bits. The Voyageur, merci pour les bits également. Et hop. Et maintenant, Libération. Donc il y a la question, parmi les gros débats économiques du moment, il y a la question donc des prix de l'électricité et du gaz. Et puis, il y a qu'est-ce qu'on fait des super profits de certaines grosses entreprises en France? On les taxe ou pas? Hein? Est-ce qu'on taxe les super profits des entreprises? Alors le débat a commencé il y a un moment déjà, quand ces grosses entreprises, les Total, les L'Oréal, les LVMH ont publié leurs chiffres annuels, les résultats, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, ils étaient, alors, à l'époque on a dit, dis donc, ah ben dis donc, ça va, hein, Total. Hein? Alors certains ont dit à l'époque, bon, super profit, super taxe. Et le gouvernement, à l'époque, a dit, wow, non, oui, attendez, c'est l'été, on verra après. Donc, c'était pas trop d'actualité. Et on en reparle, et on en reparle. Et là, c'est la rentrée politique. Et la NUP a remis une couche ce week-end, l'alliance de la gauche. Et puis, surtout, la première ministre, Elisabeth Borne, a dit dans une interview hier, dans le journal du dimanche, oui, alors, faut pas l'écarter. Faut pas écarter la taxation des super-profits. Vous aurez noté que, entre... Non, on va pas taxer les super-profits. Il faut taxer les super-profits. Et... on ne va pas écarter la taxation des super-profits. Bon, ça fait trois positions. Alors du coup, c'est bien pratique parce que on ne va pas écarter la taxation des super-profits. Ben, ça veut rien dire, parce qu'on, du coup, on ne sait pas. Donc, on va suivre le feuilleton. On va suivre notamment le discours d'Elisabeth Borne devant le MEDEF, l'organisation patronale, cet après-midi, on ne sait jamais. Que délibération, voici Borne mise au super défi des super-profits. La NUP a martelé ce week-end la nécessité de taxer les multinationales, accentuant la pression sur la Première ministre qui est invitée ce lundi par le MEDEF. Après, je ne sais pas si la gauche met vraiment la pression sur Elisabeth Borne, je ne sais pas si c'est là qu'elle prend ses directives, je ne suis pas sûr. En tout cas, Paul Quignot, pour Libération, estime que, eh bien, c'est légitime. Il faudrait taxer les super-profits. Je lis cet édito, puis à vous de vous faire votre opinion, hein. L'abondance des super-profits va-t-elle obliger le gouvernement à revoir sa copie ? Mercredi, Emmanuel Macron évoquait la fin de l'abondance, comme pour promettre à tous des temps difficiles, pour s'adapter aux nécessités du temps, notamment le réchauffement climatique. Donc tout le monde va devoir s'adapter, tout le monde. Pour certaines grandes entreprises, écrit Libération, l'heure n'est pas vraiment aux restrictions. C'est même l'inverse. Une étude récente assure que les dividendes versés aux actionnaires de ces mastodontes économiques atteindront des sommets en 2022, particulièrement en France, plus 33%. Pour résumer, dit Libération, ça n'est pas la crise pour tout le monde. Curieusement, avant l'été, le gouvernement a fermé la porte à l'idée d'exiger de ces grands groupes ultra-bénéficiaires un petit effort. Qu'est-ce que je vous disais avant l'été ? Le gouvernement a clairement dit non, hein, par... la bouche de plusieurs ministres, je m'en souviens très très bien. Alors qu'ils demandent à l'opinion publique de se serrer la ceinture, la question est d'autant plus légitime que certaines de ces entreprises qui font des super cadeaux à leurs actionnaires profitent de l'augmentation des prix d'énergie liée à la guerre en Ukraine. On pense par exemple à Total. Antonio Guterres, qui est le patron de l'ONU, a exhorté tous les gouvernements à taxer ses profits. Donc vous avez quand même le secrétaire général de l'ONU qui dit bah, « si, ça fait un moment qu'il le dit. Il faut taxer ces super profits. Pourquoi ?» Je cite Antonio Guterres, « Il est immoral que les sociétés pétrolières et gazières réalisent des profits records grâce à la crise énergétique actuelle sur le dos des plus pauvres. » Conclusion de l'édito de Paul Quignot, alors qu'elle est attendue ce lundi devant les troupes du MEDEF, Elisabeth Borne a elle-même rouvert sa porte samedi à l'idée de taxer ses super profits, mais à moitié seulement, en disant donc qu'elle ne l'excluait pas. Woodcry, merci pour... ce très gentil message pour ce quatrième mois d'abonnement. L'Extratovic, heureux de te lire. Merci pour ce 10e mois d'abonnement à iSide. Énorme. Et on continue. On continue. Je vous lis un petit peu. Elisabeth Borne. Ouais. Je vous lis ça dans un instant. Je vous le résume même plutôt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce débat ? On va faire un sondage, d'ailleurs. On va faire un sondage. Hein ? Bon, là, je vous le résume. Hein. Elisabeth Borne plie, mais ne rompt pas. Effectivement, avant l'été, le gouvernement disait assez clairement on va pas taxer les super profits. Il ne faut pas augmenter les impôts sur les entreprises. Il faut les aider à se développer, à la croissance. Bon, c'est ce discours qui est un discours qui est assez libéral. Et puis là, il y a une petite inflexion. Hein. Elisabeth Borne, elle n'a pas dit hier non. Elle a dit il ne faut pas écarter cette idée. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais c'est une petite évolution du ton. Bah, voilà ce que dit cet article. Voilà. Mais comme le résume Libération, si elle ne ferme pas la porte à la taxation, ça ne veut pas dire qu'elle l'ouvre vraiment. Je vous montre juste le dossier de l'UMA là-dessus, pour dire que l'Humanité consacre également sa une à ce sujet. La gauche met Macron au défi sur la question des super profits. Voilà, il y a un bel édito ici que je n'aurai pas le temps de vous lire par manque de temps ce matin, de Sébastien Crépel sur la question, qui dit, je vous résume... Je vous prends une phrase qui résume un peu. Alors en fait, c'est un édito politique intéressant qui dit que cette question de la taxation des super-profits montre que, contrairement à ce que certains espéraient, notamment du côté du camp Macron et de l'opposition de droite et du Rassemblement national, eh bien, la gauche arrive à s'entendre sur des sujets, notamment sur la taxation des super-profits, et donc... comment les dissensions au sein de la NUP ne sont pas si nombreuses que certains l'espéraient. En même temps, à gauche, écrit, je crois, Libération ce matin, s'entendre sur la taxation des super-profits à gauche, c'est pas le truc le plus compliqué, bien plus compliqué que sur la question internationale, par exemple. Je vous remets l'UMA de côté et on fait un petit sondage là-dessus. Allez, hop, ils sont mes sondages. Gérer les sondages. Un petit sondage. Tiens. Voilà, je vous mets la une de Libération pour illustrer cette question. Vous en pensez quoi, vous? Nouveau sondage. Hop, j'ai besoin de mon clavier. Va-t'en, va, pousse-toi, Libération. Alors, faut-il taxer les super profits, hein? Donc, qu'est-ce que c'est les super profits? Ce sont les profits vraiment très élevés, exceptionnels, des grosses, grosses entreprises françaises, multinationales, voilà. Donc, voilà. Est-ce que exceptionnellement, au nom de la, j'essaie de résumer la position de ceux qui veulent ce truc-là, de la solidarité nationale, est-ce qu'il faut taxer au-delà des impôts prévus habituellement sur les entreprises ces super profits? Ça veut dire quoi très élevé? Bah, Stom, j'ai pas la réponse. Après, c'est au législateur de mettre un degré, une barre. Ça, c'est après, c'est un débat un peu technique, voilà. Mais en gros, sur l'idée générale, est-ce qu'il faut taxer les super profits des entreprises? Voilà. Ou, et là, argument côté libéral, non, 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 bah non, 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 non. Hein, que disent ceux qui sont opposés à ça? Je vous résume aussi un petit peu les arguments. Bah non, non, bah non, non, non. La France est déjà un pays où les entreprises sont très taxées, même si les impôts ont baissé ces dernières années. Laissez l'argent aux entreprises pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent embaucher, pour qu'ils puissent éventuellement faire de la recherche, pour qu'ils puissent aussi verser les dividendes aux actionnaires. Parce que si vous ne donnez pas les actionnaires de dividendes aux actionnaires, ben les actionnaires ils vont pas forcément mettre de l'argent dans l'entreprise, acheter des actions, etc. Et tout. Bon, ça, ce sont les arguments libéraux. C'est deux philosophies générales. Je ne sais pas où vous vous inscrivez là-dedans. Faut-il taxer les super profits? Oui. Non. Je ne sais pas, Samuel. Je n'ai pas encore d'avis là-dessus, mais je te remercie d'avoir posé cette question. C'est très gentil. Let's go, le sondage, c'est parti. Pendant que je bois du café. Le mec qui insiste sur café pour bien souligner qu'il ne boit pas d'autres breuvages, bien sûr. Est-ce que je regarde juste si j'ai une réponse du. Tiens, je vous montre le sondage. Du technicien qui doit passer à la maison tout à l'heure. Parce que, en fait, il va m'appeler parce que je ne risque pas de l'entendre à l'interphone. Donc, je vais voir s'il a reçu mon mail. D'ailleurs, je vais ouvrir la porte, je ne m'en voulais pas. Bougez pas, je vais ouvrir la porte pour entendre la sonnette. Pendant que vous votez. Mais, voir les résultats. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah bah ça dit oui. Est-ce qu'il faut taxer les super profits? Eh ben ça dit oui. Enfin ça dit oui. Vous dites oui. À 74% quand même. Bah ouais. Hein? 12% seulement non. Voilà. Et 14% je ne sais pas. Voilà. Il y a Stom qui dit, perso, je trouve ça un petit peu trompeur comme question, car ça laisse entendre que les profits ne seraient pas déjà taxés. Stom, j'ai dit clairement, quand même, oralement, pas dans cette question, j'ai dit clairement, est-ce qu'il faut taxer au-delà de ce qui est déjà prévu comme taxes et impôts sur les sociétés? Donc, au-delà, ça veut dire qu'il y a déjà des impôts. Je ne laisse pas entendre que les entreprises ne payent pas d'impôts, ces grosses entreprises. Même si c'est un autre débat, les chiffres sont formels là-dessus. Plus l'entreprise est grosse en France, plus elle est proche du statut d'une multinationale, moins proportionnellement elle paye des impôts. C'est-à-dire que. Attends, je vais encore râler. Bon, voilà le résultat définitif, 74, 14, 11. Ok, d'accord. Je vais encore râler. Les chiffres sont. C'est les chiffres. Hein. Voilà. Plus l'entreprise est grosse, moins elle paye proportionnellement d'impôts. Plus elle arrive par une optimisation fiscale, des montages, des histoires de filiales à l'étranger, etc., à échapper à l'impôt. Et c'est un peu gênant quand même. Les entreprises qui payent le plus d'impôts proportionnellement par rapport aux bénéfices au chiffre d'affaires en France, c'est les petites. C'est les toutes petites, c'est les PME. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors. Qui, elles, ne savent pas, ne veulent pas, n'ont pas les moyens, comptables, avocats, pour ces montages, pour pouvoir échapper. Et ça, c'est pas un truc que j'invente, hein. Vous avez des énormes entreprises, alors le phénomène n'existe pas qu'en France, hein, qui grâce à l'optimisation fiscale arrivent à échapper parfois quasi totalement à l'impôt. Voilà. Bon, ça c'est un débat. Mais on n'aura pas le temps de l'avoir ce matin. En tout cas, merci d'avoir voté. Pim, je remercie Iseco 954 pour le 10e mois d'abonnement et pour le message. Bride, merci pour le 7e mois d'abonnement. Bélier. Alors, Bélier, c'est un beau signe, Bélier, celui de ma femme. Et je crois que j'ai remercié Would You Cry déjà tout à l'heure. On enchaîne, on enchaîne parce que le technicien a sonné dans 28 minutes. Bim. L'humanité donc consacre également sa une à la question des super profits. Je vous le disais. Et moi, je voulais absolument vous lire ça. Alors, c'est pas très très gai, c'est même dramatique et sinistre, mais ça, c'est des choses dont il faut absolument parler. Toujours en France. Toujours plus de femmes tuées par leurs conjoints. En 2021, le ministère de l'Intérieur a dénombré 122 féminicides. 20% de plus qu'en 2020. Ce retour à des chiffres d'avant le confinement montre, écrit l'UMA, le peu d'effet de la grande cause nationale qui avait été décrétée par l'exécutif. Le compte n'y est toujours pas, écrit Camille Bauer, dans l'UMA, 5 ans après le discours d'Emmanuel Macron faisant de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint en 2021, selon le rapport qui a été publié là il y a 3 jours par le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre, qualifié de glaçant par Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, est en hausse de 20% par rapport à 2020, année marquée par le confinement et les couvre-feux. Il retrouve en revanche un ordre de grandeur similaire à ceux d'avant le Covid, 146 femmes tuées en 2019, 121 une en 2018, 130 en 2017. Malgré les efforts sans précédent engagés par l'État ces 5 dernières années, les féminicides restent à un niveau trop élevé, reconnaît la ministre. Circonstances et profils des auteurs comme des victimes restent inchangés d'une année à l'autre. Donc là, il y a un profil, moyen de l'agresseur. Voilà, l'homme qui tue sa conjointe est le plus souvent en couple. De nationalité française, âgé de 30 à 49 ans, ou de 70 ans et plus, n'exerçant pas ou plus d'activité professionnelle. Le passage à l'acte est motivé par une dispute, 31 cas, séparation non acceptée, 27 cas, jalousie, 25 cas, maladie de la victime, 21 cas, qui, après 70 ans, devient la cause principale. Le meurtre est perpétré au domicile conjugal dans l'immense majorité des cas, 78%, le plus souvent commis avec une arme blanche, 37 cas, arme à feu, 44 cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres ? L'étude souligne en creux l'incapacité de l'État à protéger les femmes, même quand les autorités ont été alertées. Deux victimes de ces 122 faisaient l'objet d'une ordonnance de protection au moment du meurtre, alors que plus de la moitié des 32% de femmes ayant subi des violences antérieurement les avaient signalées à la police et que parmi elles, 84% avaient porté plainte. Les mêmes négligences étaient observées du côté des meurtriers. Un seul conjoint était sous contrôle judiciaire au moment de son passage à l'acte, alors que dans 25% des cas ici, l'auteur est connu des services de police et de gendarmerie pour avoir commis antérieurement des violences, dont 75% pour des faits de violences conjugales. Alors, que montrent ces chiffres selon l'Humanité ? Merci Chilouz pour les bits. Eh bien, les limites du Grenelle contre les violences conjugales qui avaient été organisées par le gouvernement, vous vous en souvenez peut-être, en 2019, les mesures qui avaient été adoptées à ce moment-là n'ont pas été assez budgétées, elles ne peuvent pas être déployées partout, il n'y a pas assez de bracelets anti-rapprochement ni de téléphones grave danger pour protéger les femmes, explique Pauline Baron, qui est membre d'un collectif féministe qui s'appelle hashtag nous toutes. Alors que les adolescentes figurent dans ce décombre macabre, les organisations féministes pointent en outre l'absence à l'école de programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Pour réduire les violences, il est urgent de donner aux jeunes filles des armes pour contrecarrer l'image du couple, des armes intellectuelles, culturelles, encore trop souvent véhiculées, dans laquelle amour et possession se confondent. Voilà. Voilà pour ce papier essentiel qu'il fallait absolument lire ce matin sur ce phénomène que nous n'arrivons pas à enrayer, à réduire dans notre pays. Occitanien, c'est vrai ce que tu dis. Occitanien qui dit que l'Espagne a de meilleurs résultats que la France concernant le féminicide, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, on essaye de s'inspirer de ce qui se fait en Espagne, en France. Voilà. Bien sûr, tu as raison, Macarel. C'est pas exprimé par l'article, mais cette phrase manque. On parle de l'éducation des femmes. On fait quoi l'éducation des garçons ? Bien sûr que ça passe par là aussi. Et tu as raison, Lama. Il y a Lama qui dit l'école pour éduquer encore, l'école sert à instruire avant tout. C'est pas que le rôle de l'école. Hein. Bien sûr, là aussi, l'éducation, c'est le travail des parents aussi, hein. Bien sûr, tu as raison, bien sûr. Pipa64, merci pour ce 7e mois d'abonnement à l'instant. Voilà. Voilà pour l'article de l'humanité. Allez, on revient. Je ferai pas de pause café ce matin, c'est cadeau, c'est pour vous. Pas de pause café. Si je fais un stream de 2 heures, je vais pas en plus faire une pause café. Qu'est-ce que c'est que ces messages-là? Je comprends rien. Ah oui, non, c'est quelqu'un qui se trompe de numéro. D'accord, ok. Alors, à la une des échos, bah, la question de cette pénurie d'énergie que nous craignons là pour l'hiver, hypothèse que le gouvernement prend de plus en plus au sérieux, et il n'est pas impossible, on verra, vous verrez l'actualité, ou ce sera sur les chaînes Info en continu cet après-midi, dans les 20h ce soir, et puis dans les journaux papier demain matin avec des analyses, on verra si Elisabeth Borne va en parler aux entreprises, puisque la Première ministre va devant le comment. Les patrons du MEDEF cet après-midi, discours aux alentours de 14h. Peut-être pour lancer un appel, pensent les échos, à la sobriété énergétique. Elisabeth Borne croit savoir le journal, va demander aux entreprises de réduire de 10%, c'est pas rien, hein, leur consommation énergétique pour éviter les coupures de courant cet hiver. Voilà, je peux vous résumer le deal, hein. Alors, je pourrais vous lire l'article, mais je peux vous résumer le deal. C'est en gros, qu'est-ce que va faire Elisabeth Borne? Elle va le dire tout à l'heure aux entreprises, notamment aux plus grosses, les gars. Les filles aussi. Vous réduisez de 10% votre consommation d'électricité là maintenant d'ici l'hiver, parce que sinon on a un vrai risque de pénurie d'électricité, de gaz, d'énergie au niveau du pays. Et comme on va pas couper le gaz et l'électricité aux Français, c'est à vous de faire l'effort. Voilà. Donc vous réduisez à hauteur de 10%, sinon on prend des mesures. Voilà, c'est un petit peu le deal. Le gouvernement qui a déjà commencé à préparer sur des scénarios là-dessus, et c'est déjà exactement en cas de pénurie et donc de risque de blackout, hein, de coupure générale, quels sont les secteurs où, eh bien, il y a des entreprises à qui il sera demandé de baisser la production, de diminuer la production, de suspendre la production, voire de totalement arrêter sa production. Donc en gros, s'il n'y a pas des efforts qui sont réalisés, notamment au niveau global des entreprises, bah, il y a des entreprises qui pourraient voir cet hiver, eh bien, leur fourniture de gaz ou d'électricité freinée, limitée, suspendue, hein, pour éviter le blackout et le fait que bah, on coupe, je sais pas, l'électricité, le gaz aux particuliers, aux hôpitaux ou que sais-je. Voilà. Je lis la fin de l'article. Un premier bilan des mesures annoncées sera versé fin septembre ou début octobre. Vous voyez, je pense que le truc est pris quand même très au sérieux par les autorités. Le gouvernement n'exclut pas des mesures contraignantes. Et si à la fin ces mesures d'économie mises en œuvre se révèlent insuffisantes par rapport à l'objectif de baisse de 10%, le gouvernement eh bien prendra des mesures. Voilà. Des mesures de rationnement sur les activités les moins essentielles. Voilà. Je vous résume à mort l'article, parce que ce matin on manque un peu de temps, mais comme ça vous avez toutes les infos. La Vita Love Life, comment vas-tu? Oh. Je sais pas si je mérite ça, mais ça me fait plaisir. Merci pour ce contenu de qualité qui m'a réconcilié avec l'actualité. Et en plus, ça rime. Mais oui, un Discord, Soufian. Les modos, les modérateurs, ont créé un Discord. Tu tapes point d'exclamation Discord dans le chat, t'as tout. Je salue les modos. Anonyme 31. Francis, nouveau modo. Gandalf Listari. Gujo 72. Je prononce bien Gujo, d'ailleurs, c'est Gujo ou Gujo? Ou Gugo? Gugo, Gujo, Gujo. Nouveau modérateur, Jules, qui est notamment à l'origine du Discord. Petit dragon Verdora, Jules est nouveau, même si c'est un viewer habitué depuis longtemps, et Xineco également. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que je vais vous lire maintenant? Oh, j'ai soif. Déjà, je vais vous lire vous un petit peu, parce que j'aime bien vous lire de temps en temps vous. Où est-ce que vous êtes, le chat? Je suis perdu. Ah oui, c'est parce que je vais afficher les modos. Ce biche de Zitch. Merci pour le message. C'est quoi, c'est de l'allemand? Comment c'est? Je prononce très mal, je suis sûr. Alors, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Merci, docteur Pimpin. Ça va, Anna Bananas? Chaud, Oh, il y a des pseudos qui sont beaux. Hein. Show Miss Pet Pet. Merci pour ton prime, c'est super gentil. Allez, j'enchaîne. Allez, Samuel, tu es en train d'en faire. Là, regardez. Là. T'attends ton train où t'as 15 minutes à tuer avant un rendez-vous. Tu dis, allez, je vais pas. Tu te dis pas là tout de suite. Tiens, je vais lire Les Échos, le supplément, le cahier des Échos entreprise et marché. Tu te dis pas ça, tu vois. Entreprise et marché. Bah si, parce que c'est gavé d'articles vachement intéressants en fait. Tiens, une double page déjà sur les États-Unis qui entament leur retour sur la Lune. Je vous ai pas lu l'article sur la Lune. Il est où l'article que je voulais vous lire sur la mission Artemis là, Samuel Etienne? Bah oui, il est dans Libération, voilà. Et vous dites rien? Et vous dites rien? Bah alors, je vous le mets de côté. Eh ouais. Eh oui, j'oublie de vous parler d'un des trucs les plus importants d'aujourd'hui. Voilà, le décollage de cette grosse fusée là. Putain, je vous la fais décoller moi. Bien avant l'heure, c'est 14h si c'est pas reporté. Regardez comme je fais bien les effets spéciaux. C'est une chaîne de fous ici, il y a les moyens. C'est beau. On a l'impression d'être un Cap Canaveral. Magnifique. Donc, je vous mets de côté. Tout ça sans rien prendre. Hein. C'est mon état normal. Donc, double page dans les Échos. Sur les états... Sur les États-Unis qui entament leur retour sur la Lune. Et c'est pas parce que je suis sur Twitch que je fais ça. Hein. Je pourrais faire ça sur France Info. Hein. Aussi. Et puis. Ah ouais, non, ça c'est trop triste. Ah non, ça c'est flippant. Ça. Ah non, ça. Ah non, je peux pas vous lire ça. Ah non, je peux pas vous lire ça. Oui, 14h30, 14h33. Non, je peux pas vous lire ça. Bon, là. Si, je vais vous lire ça. Donc. Il y a deux articles intéressants. Parce qu'on parle, de la hausse des prix de l'électricité et du gaz. À un moment, je suis sûr que certains dans le chat ont dit... Il y a Xoves qui dit « ça pollue pas d'aller sur la Lune ». Bonne question, enfin ça se pose. Et il y a Jibizor qui dit « la modération !» Modération de quoi? Quelqu'un a droit de se poser la question du bilan... énergétique de la conquête spatiale. Pourquoi tu dis modération? Modération de quoi? Bon, j'ai pas dû. Il y a des trucs que j'ai pas compris. Bizarre. Ah, il répondait à un autre Samuel qui dit. Ah, il s'est trompé de ligne, je pense. D'accord, ok. Ah oui. Ah, modération pour un autre truc. Ah oui, c'est quelqu'un qui dit nazi à tout bout de champ. Qui parle d'écolo-nazi. Ah oui, c'est pas très... Oui. Ça manque un peu de finesse, ça. Ça manque un peu de finesse, hein, quand même. Il y a moyen de faire mieux que ça. Hein. Voilà. Donc oui, à un moment, pour revenir sur le gaz et l'électricité, donc ça monte. À un moment, on va peut-être se demander pourquoi ça monte. Eh bien, vous avez un petit article dans Les Échos qui est vachement clair là-dessus. Les prix du gaz et l'électricité donc, atteignent des niveaux stratosphériques. Les chiffres de ouf, je vous les ai déjà donnés tout à l'heure. Voilà, les mots inquiétants des professionnels sur les marchés, que disent les traders spécialistes de ces questions en ce moment, les mots, c'est urgence, c'est effondrement, c'est pénurie. Pourquoi il y a cette crise aujourd'hui? Dans le sillage du conflit en Ukraine, la Russie continue de réduire actuellement ses livraisons de gaz à l'Union européenne. Les flux via le gazoduc Nord Stream 1, soyons précis, ne dépassent pas 20% de ses capacités. Ils vont même être arrêtés là, 3 jours début septembre, officiellement pour des raisons techniques. Petite révision, hein, mais le marché n'est même pas sûr que ça va reprendre derrière. Donc vous avez la Russie qui a progressivement réduit ses livraisons à l'Europe, pour les raisons que vous imaginez bien. La Norvège, qui est l'autre grand fournisseur de gaz à l'Union européenne, eh bien, peine aussi à livrer des volumes suffisants en raison d'une série de maintenance, problèmes techniques. Comme une partie importante de l'électricité pour l'Union européenne, notamment est générée à partir de gaz, eh bien les prix de l'électricité suivent la trajectoire. Les tensions sont d'autant plus fortes que de nombreux réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt en ce moment, vous savez, alors, ou pour des problèmes de classiques de maintenance qui étaient prévus, ou des problèmes un peu moins classiques de corrosion. Donc vous avez un nombre important de réacteurs français qui sont actuellement à l'arrêt. EDF, qui est traditionnellement exportateur net d'électricité, a annoncé que le redémarrage de certaines centrales interviendrait plus tard que prévu pour les industriels. La flambée de l'énergie est en train de virer au casse-tête. Pourquoi ça monte en ce moment ? Ben vous avez notamment la guerre en Ukraine, bien sûr, et vous avez aussi au niveau européen les problèmes au niveau de la Norvège et les problèmes en France au niveau des centrales. Voilà. Le résultat de tout ça, entre inflation, activité en berne et ses problèmes énergétiques, les économistes sont nombreux à penser inévitable une contraction de l'économie européenne. Alors ça, c'est un truc. Pourquoi ça monte en ce moment ? Voilà. L'autre papier qui est hallucinant ce matin dans les échos, c'est les échos qui s'intéressent vachement aux marchés financiers, tout ça, qui sont un truc en tant que tel, et aussi des genres de thermomètres. Hein. Les marchés financiers adorent essayer de prédire, de deviner l'avenir pour savoir où mettre les sous-sous. Hein, voilà. Et donc, les analystes financiers sont vachement sur la prédiction comme ça. Et par exemple, donc, ils se posent plein de questions. Le risque de catastrophe climatique, le risque, je ne sais pas, les bonnes récoltes sur une céréale. Enfin voilà, ils essaient d'anticiper sur ça. Et aussi sur les guerres. Et par exemple, les marchés financiers se posent la question de la... Oui, comme pour les prénoms des gamins, Edgar, exactement. De la Troisième Guerre mondiale. Allez, bonne humeur, bonheur, félicité. Troisième Guerre mondiale, les marchés jouent à la roulette russe. 6 mois après l'invasion de l'Ukraine, une guerre planétaire, n'est plus un sujet tabou et impensable pour les marchés. Vous avez bien entendu les mots ? Une guerre planétaire, selon les marchés, n'est plus un sujet tabou, n'est plus impensable. Okay. La guerre froide a rarement été aussi chaude. Un courtier voit grandir le risque d'une troisième guerre mondiale. Le monde joue à la roulette russe avec un revolver à 5 balles. Écrit par exemple un chercheur économique. Alors jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le pistolet, c'est une très mauvaise idée par exemple. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il estime, donc cet économiste, que la probabilité d'une troisième guerre mondiale a été multipliée par 2. Il a défini cette probabilité comme une confrontation, enfin cette guerre mondiale, entre, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appellerait une guerre mondiale aujourd'hui ? Une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie, ou la Chine, voire les deux à la fois. Depuis la crise financière de 2008, l'économie mondiale suit une trajectoire de récession, de troubles sociaux, de montée du protectionnisme, de hausse de la dette, de populisme, qui n'est pas sans rappeler ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, écrit Matt Gertken, cet économiste. Alors il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi Taïwan, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, et les tensions avec la Chine, il y a aussi l'Iran dans une moindre mesure, voilà les risques géopolitiques actuellement, de la même manière qu'ils ont ignoré les signes avant-coureurs d'une invasion en Ukraine. Rappelez-vous, personne n'annonçait cette guerre. Il y a plein d'esprits très brillants qui vous disaient jamais la Russie va attaquer l'Ukraine. De la même manière, il semble que les investisseurs minimisent par exemple le risque d'une intervention militaire de la Chine à Taïwan et l'onde de choc que ça provoquerait. Voilà, troisième guerre. J'ai des chouettes articles ce matin. Hein. On est c'est très, 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 très. On va s'aérer un peu la tête. On va aller dans l'espace. C'est un des gros titres de l'actu ce matin. Vous avez vu, on est en train d'en faire ce matin. Hein. Empereur BH, merci pour le 9e mois. Merci pour la bonne reprise. Bonne reprise à toi aussi. On va s'aérer la tête. Même si ça soulève des questions. Hein. Aussi, on va parler de conquête spatiale un petit peu, c'est une des grosses actus de la journée, c'est ce décollage aux alentours de 14h30, 14h33, si ça n'est pas reporté pour des raisons techniques ou de météo, bien sûr, merci The Voyageur pour les bits à nouveau, le décollage d'une grosse fusée, c'est la mission 1 d'Artemis, voilà. Artemis promet la Lune, pour ceux qui n'ont pas les infos, qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, à quoi ça sert ? Fait inédit depuis 50 ans, la NASA doit procéder ce lundi, 14h, heure française. Oui, exactement, Edgar. 14h33. Voilà. Il y a un décompte. Tiens, on peut même trouver sur Internet le décompte. Hein. Count. Comment on dit décompte en anglais il y avait Europe qui avait fait un countdown. Countdown. NASA countdown. The final countdown. Vous vous rappelez du groupe Europe ? Excusez-moi, désolé. Ne me dis pas que j'ai trouvé le countdown. Ne me dis pas que j'ai trouvé le countdown. Ouais, donnez-moi le. Je l'ai plus. Où Ground System. Si ça se trouve, je vais cliquer sur deux trucs et je vais accéder à la salle de contrôle. Je vais lancer la fusée, quoi. Bon, je l'ai pas. Space Countdown. Tu vois là. Là, je suis sur le site de la NASA, là. Non, pas le final countdown. Countdown. Artemis 1. Attends, faut pas que je démarre le truc, hein. Parce que là, on va. Là. Ouais. Il y a quelqu'un de super gentil qui, alors que je chantonne et que je massacre quelqu'un qui dit attention au DMCA, Samuel. Alors, et si on. Et sur Twitter, on va trouver ça, countdown. Count. Alors, NASA. Ah, NASA. Voilà le. Oh le voilà le lien officiel. Poursuivre le lancement d'Artemis 1. Attends, je vais finir par me choper un virus, moi. C'est vrai ou pas? Il est où le. Il est où? C'est quoi? C'est une heure? Mais non. Ah bah si, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, regardez. Là, vous avez. 2 heures, mais non, c'est pas ça. 12 heures, ah, c'est non, 3 ah non, ça marche pas. Tim Rams, qu'est-ce que c'est que ce connerie? C'est un vieux machin, ça. C'est une vidéo, c'est pas un countdown, ça. N'importe quoi. Un jour, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il me raconte? YouTube, c'est une vidéo. Ah, Gandalf, merci. Ouais, heureusement que vous êtes là. Ah, on y est. Tais-toi, toi, la musique, là. Voilà, là, on y est. Voilà, c'est ça. Là, on y est. C'est, là, c'est ça. Moins deux... Ah, merci, heureusement, vous êtes là. Hein, parce que j'aurais pu y passer la journée. Moins 2 heures, 10 minutes et 5 secondes. Ah, bah, il est gelé. Ah, c'est pas bon signe, ça. Il est gelé. J'ai l'impression qu'il est gelé. Faut que je clique. Oh putain, j'ai lancé... J'ai lancé le compte à rebours. Oh putain. Ok, je vais vous laisser. Allez, on fait un raid. Allez, salut. Proposez-moi tout de suite des. Oh merde. Je vais lancer. Imaginez maintenant la fusée qui démarre sous nos yeux. Ce serait génial. Oh, ce serait super. Imaginez. Oh putain, je. Oh ça démarre. C'est moi qui ai fait ça. Il est con. C'est génial quand même, c'est génial, on est en live. C'est génial. La fusée est habitée. Non, Devan, je vais t'expliquer parce que là je fais le con là. Mais je vais vous expliquer. Alors, c'est quoi la mission Artemis? En fait, c'est super important. Je vais devenir un petit peu sérieux. Je suis aussi un petit peu journaliste quand même. Donc, voici le papier Libé qui est bien fait. C'est sur 2 pages. Artemis 1 promet la Lune. Fait inédit depuis 50 ans. La NASA doit donc procéder aujourd'hui, pour la première fois depuis 50 ans, au lancement d'une fusée en direction de la Lune. Hein, on ne va pas se poser là sur la Lune. Événement qui prépare la reprise de l'exploration humaine de l'espace. Décollage. Ce lundi, des milliers d'Américains, je crois qu'il y a des dizaines de milliers de personnes sur place, à Cap Canaveral, ont réservé leur place sur la plage, une terrasse avec vue ou même une nuit d'hôtel sur la côte de Cap Canaveral pour assister à un lancement inédit, hein, depuis 50 ans, la mission Artemis 1 qui va préparer le retour de l'homme sur la Lune. Le spectacle va être impressionnant parce que sur le pas de tir 39B, donc là où on était à l'instant, là, hop, ici, tac. Attends, elle va partir, vous allez voir. Sur ce pas de tir, donc, eh bien, est placé le Space Launch System, fusée conçue pour égaler les performances de la mythique Saturne V, qui a emmené entre 69 et 72, quoi, eh bien, les premiers marcheurs sur la Lune. C'était le programme Apollo. On est en train de se refaire le programme Apollo, mais enfin, en mieux, quoi. 98 mètres de haut, 2600 tonnes au décollage. Il faut bien ça pour arracher de la traction terrestre et poursuivre son chemin jusqu'au à notre satellite naturel. Dans le cadre de la mission Artemis 1, Orion, donc Orion, c'est le... Je vais vous dire ça tout de suite. Orion, c'est le vaisseau en fait qui est au-dessus. On le voit là. Alors, je crois qu'Orion, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est... Attendez, je vous montre. Orion, donc c'est le vaisseau, donc c'est ce qui est en haut. Alors, c'est, je ne sais plus si c'est le petit tube, la petite cheminée blanche, là où l'ensemble... Enfin, bref, c'est le truc en haut, quoi. Voilà, soyons précis. Orion va, Artemis 1, faire le tour de la Lune à vide pendant 42 jours. C'est une très longue mission, hein. À vide, donc vous ne mettez pas d'astronautes dedans. Puis, il reviendra dans l'océan Pacifique. En 2024, donc, Artemis 2 emmènera des astronautes en orbite lunaire. Donc, cette fois, on renvoie des astronautes en 2024 en orbite autour de la Lune, comme Apollo 8. Et l'année suivante, au plus tôt, donc 2025, eh bien, on va allunir. C'est-à-dire qu'on va, cette fois, envoyer à nouveau des astronautes américains, a priori, même si les Américains aimeraient bien avoir un petit strapontin aussi, les Européens, pardon, sur la Lune. Donc, Libération explique. On reverra alors à la télé, surtout sur Internet, des êtres humains faire des bonds de cabri dans la pesanteur lunaire pour la première fois depuis les 12 chanceux de l'époque Apollo. Départ prévu pour l'instant à 8h33 heure locale. Voilà, je vous remets l'image. C'est beau. C'est beau, c'est direct, hein, c'est live. 14h33 heure de Paris, avec une fenêtre de tir de 2 heures, hein, donc si la météo se complique, parce que je sais qu'il pleuvait tout à l'heure, on a fait un direct ce matin sur France Info, il pleuvait sur place. Donc la pluie, c'est pas un problème, c'est les orages qui pourraient poser problème. Donc si y a un problème météo, si y a un problème technique, évidemment la tentative peut être repoussée un autre jour, donc soyez pas... Passez pas en mode complotiste si vous voyez que la fusée décolle pas cet après-midi, c'est tout simplement que c'est tout à fait possible. Chaque étape sera ensuite cruciale pour valider que tout se passe comme prévu, de manière nominale, comme on dit. À chaque fois que ça change d'image, j'ai peur d'avoir appuyé sur un truc qu'il fallait pas. 8 minutes après le décollage, l'immense étage principal de la fusée va retomber au sol. 4 sièges à bord du vaisseau, qui vont rester vides, donc... Putain, ils vont me lancer le truc... Flippant, ce truc-là. En attendant que la NASA révèle le nom des heureux élus qui les occuperont en 2024, on y a placé des mannequins habillés en combinaison spatiale, bardés de capteurs qui vont vérifier les forces qui s'exercent sur les astronautes lors des voyages lunaires, les radiations solaires aussi, mesurer tout ça, pour garantir la sécurité des astronautes pour le vol en orbite et le vol ensuite sur la Lune. L'objectif à terme, c'est de créer, c'est là où on va au-delà d'Apollo, une base lunaire. Une base lunaire, voilà. Une base sur la Lune, voilà. Alors, ou une station orbitale, comme l'ISS, actuellement, autour de la Lune, ou carrément une base sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Magnifique cette image. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Écrit Libération, il faut voir le programme Artemis comme une reprise de l'exploration humaine de l'espace 50 ans après les dernières traces de bottes laissées dans la poussière lunaire par Eugène Cernan, et un tremplin vers le reste du système solaire. On ne va pas passer une éternité à envoyer des robots sur Mars pour y ramasser des cailloux. Un jour ou l'autre, il faudra bien y envoyer sur Mars des humains, des scientifiques peut-être, en chair et en os. Ça implique dans l'ordre de reconstruire des machines capables d'envoyer des êtres humains sur une autre planète, de les faire revenir, c'est bien aussi, d'étudier les effets psychologiques et physiques des voyages spatiaux longue durée, de tester la construction d'habitats, l'extraction de ressources, et de voir par exemple si on peut récupérer de l'eau dans les cratères de la Lune pour faire une station essence pour fuser sur la route de Mars. T'imagines le pompiste pour aller sur Mars, tu t'arrêtes sur la Lune. La communauté astronomique rêve aussi d'installer un radiotélescope sur la face cachée de la Lune pour écouter l'espace à l'abri des fréquences radio qui parasitent, hein, qui viennent de l'activité humaine. Un tel appareil serait précieux pour la science, et s'il peut être installé par de simples robots, sa maintenance à long terme nécessite des interventions humaines. Il y a tant à faire de choses sur la Lune, et on dirait bien, écrit Libération, qu'elle commence aujourd'hui. Il y a Anatar qui dit « Je trouve ça très excitant ». Ouais, c'est vrai. Vous en pensez quoi, vous? Allez, je vous lis là-dessus, je vous lis là-dessus, je vous lis là-dessus, je vous lis là-dessus. Et je vous remets. Je vous remets l'image et l'image. Alors, c'est la science-fiction, là, me dit Graficani.
6 a.m. Eastern Time here at Launch Complex 39B, where the launch team is continuing to progress through their procedures and configuration of the space launch system for launch.
C'est pas moi, hein? J'ai rien fait, moi.
We are in the midst of an engine bleed, which you can see at the bottom of your screen. You can see the RS-25 engines. There are four of them. Currently running liquid hydrogen through those engines in order to condition them for launch, get them to the right temperatures. The LH2 team reporting to the NASA test director that they get good bleed on three of the engines, but for engine number three, which is the back right from the shot that you're looking at here,
okay,
not quite getting the bleed that they need to see there.
Bah oui, je vois bien, ouais. Bah oui.
So the team is working some troubleshooting on that issue.
Ah, j'ai un petit souci, hein.
Some of the one of the things they're doing is pressing the tank to see if they can increase the pressure on the overall bleed and get that bleed flow through number three going a little bit better.
J'aurais dit ça aussi, moi. Moi je pense comme le monsieur là.
Overall, in terms of tanking, we've been cryo-loading, started at 1:14 a.m. Eastern Time after a little bit of delay with some weather offshore. We have currently the core stage tanks, both LO2 and LH2. They were in replenish, but LH2 is now closed.
T'es à la bourre, quoi, en fait, hein? Me dis-le.
And in revert, meaning draining back the line so that they can do this engine bleed.
Ouais. T'as oublié de faire le plein, quoi. Bah ouais. Je t'avais dit, hein.
The upper stage currently in LOX load and hydrogen load.
Ouais. Bah ouais, mais bon. T'es pas non plus monsieur rigoureux, hein. Donc voilà. C'est génial quand même.
LOX load is about two-thirds of the way full. You see from this shot right here, the liquid oxygen venting from the core stage.
Bon, on comprend que bon, c'est pas encore nominal, hein. Voilà. Bon, d'après ce que j'ai compris, mais bon, ne vous fiez pas à mon anglais ni à mes connexions sur la vie, je pense que manifestement c'est un joint de culasse. Voilà. Voilà, c'est peut-être un joint de culasse. Oh, quittez pas, je crois que c'est mon technicien. Pas pour la fusée, mais pour autre chose. Bougez pas. C'est mon technicien que j'attendais. J'arrive. Je reviens pour vous dire au revoir. J'arrive. Je reviens. Tadam! Ah, c'est des mois. Bon, la fusée a pas décollé? Ça va. Ah, mais elle est jolie, là.
And from ICPS.
Les amis, je mets... bon bah voilà, je redoutais le passage à la maison d'un technicien à la maison, donc pas pour la fusée, parce que c'est pas moi qui l'a. En fait, c'est pas en vrai, c'est pas moi qui vais la faire décoller. Je vous ai raconté des cracks et donc il est arrivé et je me dois de lui expliquer des petits soucis que à la maison, donc parce que gentiment ils sont intervenus en urgence. Non, c'est pas pour réparer les toilettes japonaises. Et donc voilà, je vous avais dit, désolé, ce sera peut-être un stream court ce matin. 2h11, enfin, je m'en excuse. Ça veut dire que le dossier sur Macron qui cherche le cap de sa politique écologique dans le Figaro, je pourrais pas vous le lire, mais si ça vous intéresse, c'est dans le Figaro. Et puis c'est tout, puisque après il restait l'équipe. Hein. On est allé assez vite à la fin, justement pour rien rater. Alors, mon seul regret, c'est que dans l'équipe, bon, il y a les résultats sportifs du week-end, le PSG, l'OM, tout ça, tout ça. Mais il y a l'affaire Pogba, voilà, affaire de fou, l'affaire Pogba. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé ce matin sur France Info. Je voulais en parler avec vous parce que l'affaire est un petit peu hallucinante. Donc, désolé. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, avant de retrouver le technicien, là, on va quand même faire un raid tous ensemble, hein, c'est important. Je voulais vous remercier pour ce matin. Vous avez vu, on n'a même pas fait de pause café. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi ce matin. Je vous retrouve demain matin pour la matinée Étienne. Après, je pars en question pour un champion pendant 3 jours. Je vous retrouve quand même vendredi soir aussi pour l'hebdo Étienne, ça c'est sûr. Et puis dimanche matin aussi pour la matinée Étienne. Donc ça fera 4 streams minimum cette semaine. Et puis je vous dévoile les nouveaux invités de l'hebdo Étienne, je pense, à partir de mercredi. Hein, je vous annonce ça et j'espère que vous serez aussi nombreux. Ça m'a fait super plaisir vendredi dernier. Devant ce stream de retour sur l'actualité de la semaine. Merci à tous ceux qui ont sub, qui sont abonnés, qui ont soutenu, ce qui me permet justement de lancer toutes ces nouvelles choses sur Twitch. Je vois vos propositions maintenant et je vois des propositions intéressantes de raid. Je vous mets 2 minutes de pause. Okay. 2 minutes de pause musicale. Voilà. Et on se retrouve dans 2 minutes pour un raid tous ensemble. Je vois déjà des propositions intéressantes. Je vous dis à tout de suite. Alors, vous proposez quoi? Ok, j'ai trouvé. On raid dans 1 minute et c'est super. Et ça va être top! Trente secondes. Secondes. 10 secondes. 5.
4.
2, 1, et c'est bon. Très bonne proposition dans le chat. Je vois que certains ne connaissent pas le principe du raid. Comment ça se fait? Mais c'est merveilleux le raid. Le raid, c'est à la fin d'un stream. Eh bien, on se déplace tous ensemble sur la chaîne d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Streameuse aujourd'hui, quelqu'un que j'ai déjà raid, que je connais bien. Voilà. Et vous savez quoi? Eh bien, on va continuer à s'intéresser à notre histoire de fusée et de conquête spatiale de la Lune, parce que c'est une chaîne qui ne parle que de ça. C'est une streameuse que je connais bien, dont j'aime beaucoup le travail. Le raid est en train de se charger, il part dans 5 secondes. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Merci pour ce matin, merci de votre soutien. À demain dans la matinée étienne. Ciao, ciao. Merci pour tout.